Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Alexandre.
Salut Barthélémy.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Ça va très bien.
Eh ben écoute, pareillement, je te cache pas que la première fois que je t'ai eu au téléphone, j'étais un petit peu, je savais pas si je devais t'appeler Alexandre ou si je devais dire Capitaine Orlovski. Je sais pas, c'était peut-être un petit complexe ou un respect des grades. Et en tout cas, tu m'as beaucoup rassuré en me disant, mais non, attends, c'est pas parce que je suis militaire qu'il faut que dans un autre contexte, je le suis aussi et qu'on puisse aussi avoir un ton un peu naturel, là, Alexandre. Donc ça me fait super bien. Écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui parce que je sais que tu avais rapidement écouté l'épisode que j'avais fait avec Pierre-Henri Chuet qui est un autre pilote et que le format t'avait beaucoup plu, mais du coup t'avais sûrement dû écouter le fait que pour moi l'aviation et l'armée c'est une petite Madeleine de Proust que je partage avec mon papa et du coup je suis toujours hyper ravi et toujours aussi curieux, toujours aussi excité à l'idée de pouvoir avoir ce type d'échange. Donc écoute, on va être à la hauteur. En plus je sais que tu m'as fait plein de petits teasings sur les sujets dont on allait pouvoir parler, donc ça va être vraiment génial. Comme je te le disais en préparation, en briefing, comme toi tu dis, la première question pour lancer les échanges avec et commencer un petit peu par l'enfance, c'est de savoir toi, quel est ton premier souvenir de sport?
Alors mon premier souvenir de sport, en tout cas celui que j'arrive à me souvenir à peu près, c'est mes premiers cours de ski. Je pense que c'est quand j'ai dû passer mon flocon. Alors je sais plus quel âge j'avais. Voilà, des débuts un peu, découverte de la neige et en tout cas de la glisse. Et c'est vrai que finalement sur l'enfance, c'est ça qui me reste. Après, on va dire en tant que sport pratique de manière régulière. Mon premier sport, ça a été le hockey sur glace, et j'en ai fait jusqu'au milieu de l'adolescence, et ça a été de très très bons souvenirs. C'est vraiment une discipline que j'ai adorée, parce que finalement, je pense que ça mélange pas mal d'aspects, à la fois forcément la glisse sur la glace, et puis tout un aspect technique avec à la fois le maniement du palais et puis l'aspect tactique de jeu où ça va très vite et je pense que c'est des choses qui me correspondent bien, que j'ai vraiment apprécié. Alors, j'ai arrêté ça quand j'étais au collège, mais par contre voilà, j'ai toujours gardé un œil assez bienveillant sur cette discipline et j'adore regarder des matchs et c'est vraiment à chaque fois ça en rappelle toujours de très très bons souvenirs.
Non, super. T'as mentionné le ski et le hockey sur glace. Du coup, alors peut-être que je me trompe complètement, mais tu es né à côté d'une montagne en Savoie ou à côté des Pyrénées?
Non, pas du tout. Je suis en région parisienne, mais maintenant j'habite à Marseille, mais j'avais alors le ski, c'est parce que j'avais la chance de pouvoir aller à la montagne étant plus jeune, et ensuite le hockey sur glace, c'est juste qu'on avait une patinoire. J'ai joué à Dame Marie Lélis à côté de Melun, voilà.
Ok, génial. Et en tout cas c'est assez atypique, mais c'est vrai que le hockey sur glace c'est un sport que je trouve assez fascinant, quoi, dans l'engagement, dans effectivement la mixité entre une nécessité technique très élevée et en même temps un engagement physique absolument dingue et en même temps aussi une conscience du corps par rapport à la glisse et par rapport ou à tous les mouvements et tout, donc c'est ok, super. Et tu t'en as tiré peut-être des choses avec le recul ou des qu'est-ce que t'as appris sur toi grâce à ce sport, ou qu'est-ce que t'as appris de manière générale par rapport à la pratique du hockey sur glace?
Après j'étais jeune, donc c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins de recul sur ce qu'on fait. On y va et puis on monte sur les patins et on fait ce qu'on a à faire, quoi. Mais je pense que ça a quand même pas mal développé. J'ai fait moi pas mal d'années gardien. Donc du coup ça a affûté quand même pas mal les réflexes, je pense, parce que effectivement pour aller attraper le palais qui arrive à des vitesses assez phénoménales, il y a beaucoup de gestes assez vifs. Et puis après, je pense que si c'est une discipline qui, dans tous les cas, qu'on soit joueur de champ ou goal, en fait, on développe pas mal l'explosivité sur c'est vraiment, je pense, une des caractéristiques de cette discipline. Et voilà, je pense que c'est des choses après que j'ai sûrement pu transposer après par la suite, quoi.
Ouais, j'en doute pas une seconde. Ouais, effectivement, un palais, ça part à quoi? Ça, c'est quasiment une centaine de kilomètres heure.
Ouais, même si plus sur des gros tirs, je pense que ça arrive encore plus fort.
Ouais. Donc, écoute, je suis pas étonné que ça sollicite les réflexes et que ça les fasse travailler, en tout cas. Donc, hyper intéressant. Et du coup, dans tout ça, à quel âge tu tombes dans le milieu de l'aviation et comment est-ce que tu y tombes? Et peut-être, est-ce que c'est la porte d'ailleurs de l'armée qui t'a appelé en premier, ou c'est vraiment plutôt la porte de l'aviation qui t'a appelé?
Alors, Le virus de l'aviation, je sais pas trop comment ça m'est tombé dessus parce que dans ma famille, il y a personne, enfin en tout cas personne qui était dans le milieu. Je sais qu'en fait, a priori très jeune, on m'a offert un livre à l'époque où on lit Le Petit Chaperon Rouge pour s'endormir. On m'avait offert un livre sur l'astronomie et en fait, moi, je demandais à ce qu'on me lise ce livre-là. Enfin, c'était des histoires sur l'espace et un peu ce qui se passe au-dessus de nous. Et je pense que ça m'a vraiment fasciné parce que il faut se remettre dans la tête d'un gamin, je sais pas, 3-4 ans, ce côté à la fois déjà on essaie, je pense, de conscientiser le monde qui nous entoure déjà à proximité. Et puis là, je commence à comprendre qu'au final, il y a des choses qui sont à des dimensions complètement hallucinantes. Et ça me paraissait à la fois complètement extraordinaire et puis un peu aussi, un peu presque fantastique. Et donc, je pense que pour moi, finalement, c'était un monde un peu propice au rêve, quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite et ainsi de suite. Donc ça m'a vraiment fasciné. Ensuite, je crois que j'ai eu l'occasion, étant plus jeune, de faire un petit baptême de l'air en avion. Je crois que la première expérience n'a pas été top en fait, parce que je crois que le pilote, j'étais sûrement avec des amis de ma mère, et puis le pilote a peut-être dû faire un peu des virages un peu serrés, je pense rien de bien méchant, mais bon, les sensations à l'époque, moi, m'avaient un peu surprise. Okay. Et puis bon, du coup, quand je suis redescendu, c'était pas ça. Et je crois qu'après, pour histoire de conjurer le mauvais sort, parce que on s'est dit, faut pas que tu restes sur une mauvaise impression. Peut-être que un an plus tard, j'ai dû refaire un petit baptême en avion léger. Et là, ça s'est super bien passé. Et je pense de fil en aiguille, ça a commencé à nourrir ma curiosité de voir des machines qui pouvaient se déplacer dans les airs. J'ai eu pareil, je pense, l'occasion d'aller sur un meeting j'étais assez fasciné par l'évolution de certaines machines. Et donc, c'est comme ça, je pense, que du côté spatial, un peu astronomie, je suis redescendu d'un étage et je me suis limité, on va dire, en tout cas, au ciel qui est au-dessus. Moi, j'avais la particularité, en fait, déjà d'être assez grand, je fais 1m90. Vous aviez abordé un peu le cas avec AT, l'histoire de la taille notamment pour les pilotes de chasse. Et moi, quand j'étais déjà très jeune, moi j'étais déjà très grand pour mon âge. Et en gros, on m'avait dit non, mais de toute façon, pilote, si t'es trop grand, tu pourras pas faire pilote, en tout cas sur un avion de chasse. Okay. Donc moi, je m'étais dit non. Du coup, je me suis dit si je peux pas piloter un avion, je vais pas peut-être essayer, pourquoi pas, de travailler en tant qu'ingénieur, les dessiner, voilà. Et puis pareil, comme on a vu, enfin en tout cas comme ma mère a vu que j'accrochais bien sur le milieu, elle a fait en sorte que ça de commencer à nourrir la passion. Donc j'ai commencé à aller un peu sur les meetings en région parisienne. Là, il y a La Ferté-Alais, en fait, c'est un site où il y a un super musée volant. Tous les ans, il y a un super meeting. Et donc, j'avais l'occasion d'y aller. Et en plus, c'était l'occasion de rencontrer les pilotes, de pouvoir discuter avec eux. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que, certains, finalement, étaient pas si petits que ça, que la taille, c'était pas non plus... qu'en tout cas, il fallait tenter la chose. Et puis, c'est comme ça qu'à l'adolescence, j'ai commencé à basculer en me disant, pilote, ça serait top. Et pilote de chasse encore mieux, quoi.
D'accord, ok, ouais. C'est génial. Mais en plus, si je comprends bien, c'est pas spécialement une histoire de famille. J'ai l'impression que c'était tes parents effectivement t'ont un peu poussé vers ça, mais que pour beaucoup de pilotes, en tout cas très très expérimentés, ou que ce soit dans l'armée ou peut-être via d'autres, peut-être sur d'autres, dans d'autres institutions, c'est souvent une histoire de père en fils entre guillemets, parce qu'en plus il y a souvent, c'est quand même grand majoritairement des hommes, quoi. Et du coup, toi, c'était pas du tout ton cas, quoi. C'était vraiment de la curiosité.
Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement. Hein, moi, mon papa, lui, il a été dans le sport de haut niveau. Enfin, il est malheureusement plus là, il a été coureur cycliste professionnel. Donc, c'est de la famille. Enfin, du côté de mon père qui vraiment c'est des gens qui sont dans le vélo et ma mère pas du tout, enfin voilà, pas du tout liée au milieu aéronautique. Donc non, je pense qu'elle a juste vu que j'accrochais en fait avec ça, et en fait elle m'a même pas incité à le faire. C'est juste comme elle a vu que j'avais une attirance, bon bah elle s'est dit voilà, s'il se passionne pour ça, on va faire en sorte de voir si ça si c'est juste quelque chose de passager, parce que comme la plupart des gamins, beaucoup veulent faire pilote, pompier quand ils sont jeunes, et peut-être que ça passe. Mmh. Et puis bon, bah quand elle a vu que finalement c'est quelque chose qui que ça continuait, bon bah là, c'est dit a priori, voilà, c'est son truc, donc on va faire en sorte de nourrir la passion, quoi.
D'accord. Ouais, bah c'est vraiment génial. C'est une bonne façon de faire avec les enfants, de pas toujours leur demander, mais juste suivre un petit peu les étoiles qu'ils ont dans leurs yeux et essayer de leur faire vivre. Donc c'est vraiment génial. Et peut-être est-ce que tu peux peut-être rappeler un petit peu la chronologie que tu as suivie, parce que je sais que tu peux passer j'ai oublié le nom du baptême, mais en gros tu peux piloter un avion tout seul, je crois, assez jeune, quoi, dès 15-16 ans.
Oui, c'est ça.
Et après, c'est quel a été un petit peu ton parcours, on va dire, lié à l'aviation. J'imagine que tu rentres peut-être pas tout de suite dans l'armée.
Ah non.
Quelles sont un petit peu les grosses étapes que tu dois suivre pour justement avant d'arriver. Alors j'imagine que la route est très longue avant d'arriver dans le cockpit d'un Mirage ou d'un Rafale. Mais quelles sont un petit peu les grandes étapes et pour toi qu'est-ce qu'elles ont été, et puis après moi j'aimerais bien creuser un petit peu pour savoir ce qui a été un petit peu plus dur, qui a été ce qui challengeait, parce que tu vois, je pense que, alors dis-moi peut-être aussi si je me trompe, mais la question que j'aurais après à te poser, désolé, je te pose plein de questions dès maintenant.
On est là pour ça.
Mais c'est que tu vois, être pilote c'est une chose, c'est un rêve, je pense que beaucoup de petits garçons ou même de petites filles ont, ça donne très envie. Et pour la pratique, pour effectivement les sensations que ça peut procurer, le rêve que ça peut générer aussi. Mais être militaire, ça c'en est une autre. Et c'est le rêve vient se confronter parfois à une réalité qui peut être parfois un petit peu plus dure. Donc je serais curieux après aussi un petit peu de voir comment est-ce qu'on se construit aussi une personnalité de militaire pour suivre son rêve. Donc ma première question c'était déjà de savoir les grandes étapes et qu'est-ce qu'il en a été pour toi.
Bah, les grandes étapes c'est donc effectivement mon baptême de l'air quand j'étais vraiment très très jeune. Ensuite j'ai eu l'occasion de faire un baptême de voltige quand j'étais au collège, je crois, voilà. En fait, donc là, ça a été, je pense, aussi très très révélateur pour la suite.
Ouais.
Et après, en parallèle, ben, j'ai commencé à voler à l'âge de 14 ans, donc en aviation légère. Donc effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'on peut commencer assez jeune.
Ouais.
On passe ce qu'on appelle le brevet de base. Donc moi j'étais pareil, lâché le jour de mes 15 ans, c'est l'âge minimum pour pouvoir voler en solo. Donc c'est comme dire, c'est assez rigolo parce que on n'a pas le droit de conduire une voiture, mais on peut piloter un avion. Mais ouais. Effectivement c'est bien parce que ça donne un cadre. En plus c'est vrai que maintenant on a la chance en France d'avoir une fédération qui s'appelle la Fédération française aéronautique et qui vraiment essaie de faire en sorte que l'aviation soit le plus accessible à tous. Alors c'est sûr, hein, c'est pas gratuit, mais pour les jeunes il y a beaucoup d'aide, notamment des bourses. Il y a pas mal de choses qui font que à la fin on peut arriver à voler vraiment pour pas trop cher. Et voilà, souvent les clubs eux aussi arrivent à faire. Moi je volais en région parisienne, on avait des systèmes de permanence où en gros on faisait un peu le petit boulot et ça permettait de gagner des heures, quoi. Donc bon bah quand on sait que voilà, derrière, ça permet de payer les heures de vol. Bon, bah, je passais ma vie au terrain, quoi. Voilà. Et donc ça a été la première étape. Ensuite, bah, après, jusqu'à le cursus, donc à 15 ans, on passe le brevet de base, hein, qui est un petit brevet qui permet de se balader autour du terrain. Et ça amène à 17 ans au brevet de pilote privé. Donc ça, c'est ça permet en fait de conduire, de piloter un avion léger, de pouvoir emmener des passagers. Là, on va dire sur toute la France. Ensuite, le lycée. En parallèle, j'ai commencé un petit peu la voltige. Donc ça, c'était pareil, quelque chose qui m'a bien plu quand j'ai pu y goûter. Et, donc en fait, c'était vraiment dans un esprit de perfectionner mon pilotage. Hein. Il n'y avait pas trop l'aspect compétition. C'était l'idée, d'apprendre à pouvoir maîtriser l'avion dans toutes les situations. Et puis, je me dis, ça permettra aussi. Par la suite, par rapport, la carrière que je voulais faire, de pouvoir un peu, je vais pas dire discipliner mon pilotage, mais j'ai eu la chance de commencer la voltige avec une figure de l'aviation française qui s'appelait Jean-Marie Saget, qui a été un illustre pilote d'essai de la maison d'assaut, qui a fait voler à peu près tous les protos des années 50 jusqu'au Mirage, au Mirage 2000 et au Mirage 4000 dans les années 80. Donc a une expérience énorme et qui avait vraiment une envie de partager toute son expérience. Et donc j'ai commencé à voler avec cette personne, enfin en tout cas en voltige, et c'était effectivement il y avait aussi un cadre, et ça préfigurait un petit peu ce que j'allais rencontrer en rentrant dans l'armée pour pouvoir essayer de devenir pilote de chasse. Donc là, effectivement, on arrive à cette partie-là. Donc moi, je suis rentré, j'ai passé les sélections juste après mon bac. J'ai eu mon bac en 2000 et en février 2001, je passais les sélections pour rentrer en tant qu'élève officier du personnel navigant. Donc j'avais 18 ans. Et ensuite, après, il y a un cursus qui dure à peu près, 3-4 ans pour être breveté.
Ok, c'est le parcours classique ou c'est parce que dans le nom du diplôme, alors c'est personnel navigant, c'est ça?
Ouais, non, il y a deux voies de recrutement. Ça, c'est AT, il en avait parlé sur son podcast. En fait, on rentre soit en tant qu'officier sous contrat, c'est-à-dire c'est un recrutement qui se fait au niveau bac, ou sinon pour ceux qui sont officiers de carrière qui destinent à faire des carrières longues. Ils rentrent après un concours sur classe préparatoire, donc ils font maths sup, maths spé. C'est des profils de carrière un petit peu différents, les deux peuvent permettre de répondre aux attentes des futurs aspirants pilotes.
Ok, effectivement, je me souviens très bien de l'échange et finalement, on pense que c'est une voie effectivement. Il y a beaucoup de recrutement, il y a beaucoup de sélection et ça ne doit pas être une porte d'entrée facile, mais c'est pas le mythe un petit peu aussi compliqué qu'on peut l'imaginer dans le commun des mortels entre guillemets. Et c'est plus accessible qu'on le pense et ça permet de laisser sa chance à plus de monde. Si mes souvenirs sont bons, je sais pas si tu le confirmes, mais
oui, c'est ça. C'est que déjà en termes, en tout cas, de bagage scolaire, le niveau bac maintenant, c'est quand même quelque chose qui est, je pense, relativement accessible à beaucoup de personnes. Après, derrière, effectivement, on va plus dans les sélections, on va plus rechercher des profils, c'est-à-dire déjà de la motivation, voir si les gens se sont quand même bien intéressés. Il avait vraiment bien parlé sur son sujet, donc je vais pas le paraphraser, mais il avait bien décrit. Donc comme ça, je vous invite également à l'écouter le podcast avec AT. Les profils, la curiosité, vraiment chercher à toujours compléter son savoir, aller chercher les infos quand on les a pas. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses en tout cas on va essayer de détecter, je pense, chez un aspirant pilote. Et donc en gros, les sélections, elles sont basées là-dessus. C'est des tests psychotechniques, de la division d'attention, du sport, de l'anglais. Donc généralement, les gens qui sont quand même assez motivés peuvent se préparer. Les entretiens, ça se prépare, du sport, ça se travaille. Après, il y a des impondérables qu'on maîtrise pas. Ça peut être le côté, effectivement, visite médicale et ainsi de suite. Souvent, sans prétention, mais quand on passe les sélections, c'est sûr que si on s'en tient juste aux chiffres bruts, souvent quand on est le premier jour de la sélection, on s'en souvient tous, on arrive, on est une vingtaine, et c'est vrai que le soir, tous ceux qui n'ont pas réussi la première journée repartent. Et sur le lot, il y en a, on est peut-être 20, et en fait, d'un seul coup, ils disent, OK, telle personne, vous restez, et puis les autres, ceux qui n'ont pas été appelés, vous pouvez repartir. Enfin, en gros, c'est un peu pour résumer. Et peut-être que sur une vingtaine, il en reste plus que 7, quoi. Donc, si on dit les chiffres comme ça, ça fait très, ça fait, on dirait, bah, quand même, ça, ça écrème. Et effectivement, après, sur les 7, en tout cas, moi, de ceux avec qui j'ai passé, je crois qu'on était plus que 2 à passer la sélection. Et par contre, sur les 2 qui ont passé les présélections, en fait, on s'est retrouvés ensemble en promo. Mon collègue, là, c'est maintenant l'actuel présentateur du Rafale. Et en fait, bon, a priori, c'est que bah, la sélection, en tout cas, les gens qui ont été retenus, ça s'est passé. Et en fait, sur les gens qui sont partis, je m'en souviens, bon, bah, il y a des gens qui sont venus aussi parce que ils avaient un petit peu vu de la lumière et ils s'étaient pas spécialement préparés. Je pense qu'ils avaient dû dire, ah, bah, tiens, c'est bon, je vais faire ça. Donc après, je pense que si on remet vraiment sur les candidats qui sont un minimum préparés, alors c'est peut-être, voilà, finalement, je vais dire que sur une vingtaine, il y avait peut-être 10 qui étaient vraiment préparés à ça et finalement, il en restait plus que 7. Enfin, donc finalement, si on prend juste des chiffres bruts, c'est sûr que ça paraît complètement infaisable, mais c'est ce qu'on dit toujours aux jeunes, nous, quand on les croit sur les meetings. Bah déjà, c'est sûr que, enfin déjà, si on tente pas, on peut pas savoir, ça peut pas marcher. Et puis après, généralement, bah si c'est des gens qui ont déjà fait la démarche d'aller sur des meetings, c'est qu'a priori, c'est qu'il y a un intérêt. Ouais. Donc, je dis voilà, vous venez pas par hasard. Donc, la passion fait que naturellement, bah vous allez vous préparer pour les échéances, quoi.
Ouais. Non, et puis même le fait d'aller te voir, de te poser des questions, de discuter avec toi, c'est déjà c'est quand même
exactement.
C'est des bons indicateurs normalement, ouais.
Tout à fait.
Mais c'est marrant parce que j'avais peut-être pas tiqué la première fois que j'en avais parlé effectivement avec AT, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un état d'esprit, c'est très entrepreneurial, je trouve, comme tu vois, toute la partie problem solving, toute la partie effectivement avoir une intelligence rationnelle et de poser les problèmes, c'est très entrepreneurial, tu vois. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu le profil de l'entrepreneur dans la technologie qu'on retrouve beaucoup. Donc c'est marrant de voir qu'il y a des jolies passerelles. Et toi, peut-être pour peut-être pour expliquer un petit peu, qu'est-ce que t'en gardes un petit peu de toute cette phase de sélection et de tout ce parcours, parce que ça peut, pour certains, ça peut sembler, tu vois, de mon point de vue, je me dis waouh, tu fais ton premier baptême à 11 ans, tu rentres t'apprends à piloter du coup à 15 ans, ensuite tu peux piloter un avion qui de transport, je crois, un peu plus tard, et puis ensuite tu fais de la voltige, et puis ensuite il y a l'armée. Tu vois, pour un enfant ou pour un jeune, l'horizon n'est pas trop long, tu vois, par rapport à tout ce qu'il faut mettre en place.
Non, parce que en fait, moi, c'est bon, voilà, j'ai clairement eu des opportunités pour faire ce genre de choses, et c'est ce que je dis. En fait, souvent les gens nous demandent, mais est-ce qu'il faut piloter avant de rentrer? Alors, en fait, c'est ce qu'on répond, c'est pas nécessaire. Moi, j'ai eu la chance de le faire, donc je considère que c'est un privilège. Maintenant, on sait que voilà, tout le monde peut pas non plus faire ce genre de choses. Donc, pour autant, des fois, bah, si les gens veulent voler aussi, il y a d'autres moyens. Il y a le vol à voile, par exemple, le planeur, qui est aussi une très très bonne école. Et puis, comme on explique, c'est que le système, il est aussi bien fait, en tout cas pour ceux qui veulent rentrer comme pilote dans l'armée, c'est que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir une expérience aéronautique préalable. Et voire même des fois, il vaut mieux pas, parce que aussi le problème, c'est que on peut prendre des mauvaises habitudes qui peuvent s'ancrer assez rapidement. Alors, mauvaises habitudes, ça veut pas dire qu'on est un pilote dangereux, hein, au contraire, mais c'est juste que derrière, en gros, qu'est-ce qui va se passer, c'est que pendant toute cette phase de formation, on va nous apprendre une méthode. La méthode, en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer généralement aux gens, c'est qu'au départ, on apprend les bases du pilotage, mais rapidement, en fait, à un avion de chasse, le pilotage, c'est ce qu'on dit, c'est peut-être 10-15% du vol. Par contre, c'est 80-90%, c'est la gestion de la mission. Et en fait, pour ça, il faut que on développe des automatismes chez les gens qui soient standardisés, c'est-à-dire que on sait que bah, chaque personne va appliquer exactement les mêmes choses et avoir à peu près un raisonnement standard. Parce que, comme ça, on parlait d'histoire de confiance mutuelle, ainsi de suite. On sait que l'autre va pas faire quelque chose qui est complètement, inattendu à un moment où ou enfin voilà un moment critique. Et donc pour ça, bah il faut que les gens soient apprennent une méthode. Et en fait, cette méthode, c'est quoi? C'est qu'au départ, on va commencer à l'appliquer sur des avions légers. Donc, par exemple, ici à Salon, à Salon-de-Provence, là, moi, sur la base où je suis, on a l'école de début. Eh bien, les jeunes pilotes, là, pour l'instant, ils sont pas orientés entre la chasse ou le transport ou d'autres machines. Ils vont apprendre vraiment les bases du pilotage. Et en fait, cette méthode, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que plus ils vont avancer, plus finalement, ils vont appliquer la même chose de manière plus rapide en général, surtout sur un chasseur, parce que c'est juste un séquencement de travail. Mais au début, si la méthode, on l'applique sur un avion léger, on peut avoir l'impression que c'est complètement disproportionné par rapport au pilotage d'un avion léger. Et c'est ça, en fait, le risque, c'est que des fois, quelqu'un qui a des fois trop d'heures de vol avant de rentrer dans l'armée va avoir pris ses habitudes, va se dire, bah voilà, moi, j'ai une méthode pour piloter un avion léger, on me l'a appris comme ça. Et ça marche très bien, effectivement. Sauf qu'en fait, bah, quand il va rentrer dans l'armée, il va se dire, en gros, pour faire de la navigation, on a l'impression que, enfin, c'est hyper compliqué, alors que finalement, moi, avec ma méthode, ça marche très bien. Et oui, mais sauf que derrière, en fait, cette méthode-là, ça sera la méthode qu'il appliquera sur un Rafale ou un Mirage ou même un avion de transport. Et sauf qu'en fait, au début, ça prend pas de sens parce que, effectivement, ça paraît disproportionné, mais par contre, derrière, en fait, ouais, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais c'est comme si on disait, bah voilà, tu vas commencer sur une petite voiture, une petite citadine, mais en gros, on va te donner les bases pour piloter une Formule 1, et tu vas dans ta tête, tu vas piloter ta petite voiture comme si tu allais piloter une Formule 1 avec la même exigence, mais tu vas dire, bah ouais, mais bon, la voiture, elle va à 50, quoi, donc ça va, j'ai le temps de voir. Ouais, effectivement, mais voilà, pour l'instant, forme-toi comme ça, parce que par contre, après, quand la voiture, elle va aller à 250 en bout de ligne droite ou à 300, bah là, en fait, tu auras déjà les bons réflexes et ça va te donner de la dispo pour faire, enfin, de la disponibilité mentale pour faire autre chose. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au départ, on construit des fondations solides et puis petit à petit, bah, en fait, quand on avance et qu'on change de machine et que la machine se complexifie, bah, on se rend compte que finalement, bah, la méthode de navigation, c'est la même, la méthode pour faire de la patrouille serrée, bah c'est la même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah quand on arrive en unité, bah tout ça c'est déjà bien ancré parce que ça fait 3-4 ans qu'on le fait. Et puis bah là maintenant on dit bah ok, maintenant l'avion, tu sais le piloter. Par contre derrière, bah maintenant il va falloir gérer un radar, un autre avion à côté, tout un environnement. Et c'est sûr que si le pilotage prend vraiment des cases, bah on n'aura pas la disponibilité mentale pour faire faire le reste, quoi.
Ok, mais en fait, finalement, effectivement, ça peut surprendre et effectivement, du point de vue de l'intérieur, enfin pour ceux qui ont déjà beaucoup piloté, ça doit les surprendre. Mais quand on y pense, tu as ça dans énormément de disciplines. Moi, j'ai un souvenir de mon père et ma mère qui ont tous les deux fait droit et ils me racontaient qu'en fait, les trois premières années, on te fait bachoter le code civil et le code pénal et on te le fait apprendre par cœur sans que tu comprennes réellement pourquoi. Et en fait, c'est que à la fin que tu commences à assembler les puzzles et que tu peux vraiment t'amuser avec tout le protocole, toute la réflexion et effectivement tout le protocole de réflexion que tu dois avoir quand tu vas lire un texte de droit ou quoi. Et moi pour qui ai fait des études d'ingénieur, en fait c'est pareil, en prépa on te fait avaler des maths, des protocoles, des théorèmes, des protocoles, des exercices et en fait c'est que après que tu comprends de la mise en pratique sur effectivement je sais pas des cas très concrets, et alors qu'au début ça reste très abstrait, donc c'est pas étonnant. Et j'imagine que ça doit être encore plus poussé pour vous, mais je suis pas étonné que ça soit comme ça. Ouais. Et toi tu en gardes un bon souvenir du coup de cette période là
c'est des très bons souvenirs. Voilà, ça passe vite, hein. Moi je suis maintenant plus proche de la fin que du début, et il y a pas longtemps je suis repassé parce que le centre de sélection c'est à Brétigny-sur-Orge, maintenant ça a déménagé à Tours, et j'étais amené à passer dans la région parisienne pas très loin de la base, et en fait ça m'a fait vraiment un moment hashtag nostalgie. Où je me revoyais à 18 ans passer les grilles de la base, je m'en souviens en fait comme si c'était hier, et me dire ça y est quoi, c'est peut-être le début du rêve ou pas en fonction des résultats, mais c'était le début, les débuts de l'aventure en tout cas, et maintenant bah quand je vois les années qui ont passé, ça fait un peu plus de 20 ans, je me dis c'est vraiment quelque chose de formidable, autant sur ce qu'on vit enfin voilà, sur les machines sur lesquelles on va voler, mais également sur le côté humain, le partage, que ce soit la vie en promo quand on arrive et qu'on découvre des potes, on va partager un paquet d'années ensemble, au moins sur le début jusqu'à l'orientation dans les unités, et puis après on garde des contacts et ainsi de suite. Non, c'est comme j'ai, moi, si c'était à refaire, je re-signe de suite, quoi.
bien sûr, j'en doute pas une seconde. Mais il y avait une question que je me posais, parce que t'as mentionné plusieurs fois Jean-Marie Dasset qui t'a donné
Saget, pardon,
excuse-moi. Ouais. Je suis désolé d'avoir écorché son nom, mais effectivement, qui t'a fait découvrir la voltige. L'équipe de voltige, en tout cas en France, je sais pas comment ça se passe dans les autres armées et pour d'autres États, mais fait partie en fait des ambassadeurs de l'armée. Donc il y a la patrouille de France aussi qu'on connaît pour le 14 juillet, qui sont ces fameux avions qui traînent de la fumée bleu, blanc, rouge, ou on ne sait plus trop l'ordre si des fois il peut se passer un petit couac. Mais il y a aussi une équipe de parachutistes, il y a un vol en rafale. Qu'est-ce qui toi t'a porté un peu justement vers ce rôle d'ambassadeur? Peut-être aussi tu peux. Tu me disais quand on préparait un petit peu ce qu'effectivement ça faisait partie en fait de ton métier et de représentation et d'être un ambassadeur de l'armée française. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, jeune en fait, de rejoindre? Est-ce que c'est plus la passion de la voltige finalement que t'as eu, ou est-ce que c'était aussi le côté justement ce rôle dans lequel tu incarnes finalement l'armée française et qu'est-ce qui t'a attiré vers ça, plutôt d'ailleurs que peut-être plutôt vers qu'une autre équipe, tu vois? Je sais pas si comment vous appelez, c'est vers un pôle d'ambassadeur.
Ouais, alors nous c'est équipe de voltige de l'armée de l'air où je suis actuellement. On va dire que c'est un peu un mix de ce que tu viens d'énoncer. Donc je disais, la voltige aérienne, moi c'est une discipline que j'ai eu l'occasion d'admirer sur des meetings. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la voltige n'est pas du tout réservée à l'armée, au contraire, on en pratique surtout dans le monde civil, parce que à la base c'est une discipline sportive et qui est pratiquée à 99% par des pilotes civils, que ça soit en club, des privés ou des sportifs, des pilotes professionnels. Donc pour en revenir, moi j'ai eu l'occasion d'en voir sur un meeting. Pareil, j'étais très très jeune, je vois un avion qui fait quelque chose un peu de voilà qui semblait un petit peu défier les lois de la gravité. Semblait vraiment voler différemment des autres machines, et ça m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit l'avion devait être un peu suspendu en l'air, je me dis mais dans ma tête qu'est-ce qui se passe. Mais ça pareil, j'étais gamin, je pense que je vais avoir 4-5 ans,
très jeune.
C'est vraiment un flash, mais je me souviens d'avoir, tu vois, passer des avions à l'horizontale. Bon, jusque là c'est logique, ça vole, ça va vite, et puis d'un seul coup il y a un truc qui s'arrête, enfin qui a l'air complètement arrêté dans le ciel, un peu tourné sur place, c'est pas un hélicoptère, et j'ai dit il y a encore il y a peut-être des choses que j'ai pas encore compris au niveau des lois de la physique, après j'ai compris que c'était effectivement de la voltige. En étant adolescent, j'ai eu l'occasion d'aller sur des meetings aériens, de voir des pilotes de renom évoluer, et ça c'est un truc, je me suis dit c'est quand même quelque chose, ça a l'air vraiment top, parce qu'effectivement il y avait la passion de l'aviation de chasse avec ces grosses machines qui vont vite, qui ont des performances assez exceptionnelles, et à côté de ça, en paradoxe, il y avait ces petits avions très légers, mais qui semblaient en fait qu'il y avait quelque chose un peu d'artistique, vraiment je me disais là le mec il maîtrise sa machine, mais c'est ça a l'air vraiment et puis en même temps physique, parce qu'on voyait ça tournait, on voyait que l'avion prenait trajectoire, ça me paraissait assez extraordinaire. Et donc Effectivement, quand j'ai eu l'occasion d'y goûter après de manière personnelle, je me suis dit ouais, ça a l'air vraiment sympa. Ouais. Après, j'ai mis ça un peu de côté parce que quand je suis rentré dans l'armée de l'air, je me suis dit maintenant l'objectif c'est de rentrer comme de faire pilote de chasse, donc d'arriver au bout et d'aller sur avion d'armes. Et en fait, en parallèle, il y avait cette unité à Salon de Provence qui s'appelle l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Quand on arrive dans l'armée de l'air, on commence par Salon. Quand j'étais élève, je voyais tous les jours voler. À l'époque, c'était des caps de 132 évoluer au-dessus de Salon. Et voilà. Et en fait, il y avait toujours cette dualité côté l'avion de chasse. Je me disais, c'est quand même le kiff. Et la voltige, ça a l'air aussi d'être le kiff, quoi. Donc, je me suis dit, le rêve, c'est quoi? C'est de pouvoir faire les deux. Mais après, moi, je suis quelqu'un d'assez structuré. Donc, je me suis dit, pour l'instant, mes objectifs. Mais je gardais ça toujours un peu dans un coin de la tête. Et à partir du moment où j'ai commencé à voler de manière assez régulière, enfin, en tout cas, dans le côté militaire, voilà, la voltige, j'en faisais une fois par an. Je retournais à mon aéroclub, je me faisais un petit tour de Cap 10, c'était vraiment pour le loisir. Après une dizaine d'armées et une dizaine d'années passées dans l'armée, voilà, j'avais fait j'étais à Dijon 6 ans d'escadron. Des gens que je connaissais qui étaient justement à l'EVA, je les recroise sur un meeting et on en discute un peu ils me disent on va peut-être sûrement recruter d'ici un an. Et donc, je me suis dit, ça me plairait, quoi, parce que je me dis, c'est vrai que la voltige, c'est un truc, la passion est toujours restée là. Donc, si je peux avoir l'occasion de percer dans cette discipline, ça me dit bien. Donc, en 2010, en fait, je m'inscris dans un club de voltige qui fait de la compétition. Donc, c'était à Montpellier.
Okay, en dehors de l'armée.
J'étais militaire, mais je me dis tiens, je vais me faire une saison pour voir si ça me plaît, et notamment aller faire un peu de la compétition, parce que voilà, moi je connaissais la voltige au travers des meetings, mais je savais qu'il y avait aussi le domaine sportif.
Ouais.
Et je me dis voilà, il faut quand même que avant, enfin je dis voilà, faire du meeting, ça a l'air bien, mais si derrière, la compète, ça me plaît pas, c'est dommage de partir dans une voie qui finalement va pas m'apporter satisfaction.
Ok.
Voilà, donc en gros, je m'inscris, je fais deux ou trois compétitions durant l'été et ça se passe plutôt pas mal, voilà, avec des bons résultats, des résultats un peu moins bons, mais une saison très instructive en tout cas parce que je suis passé par les hauts et les bas. Mais le truc qui reste, c'est encore quoi, c'est-à-dire, en gros, je suis piqué par le virus, j'ai envie de progresser, j'ai envie de Donc, je me dis si y a une prospection en 2011, je vais répondre à la prospection et puis on verra bien. Donc effectivement en 2011 il y a une prospection pour cette équipe et donc j'ai répondu et j'ai passé les sélections et j'ai été retenu.
Okay.
Et donc là en fait l'idée c'était effectivement à la fois donc comme je disais il y avait quand même cette passion de la voltige. Comme je disais, on rentre pas dans l'armée de l'air pour faire de la voltige, hein. Ça c'est pas le but. Maintenant, moi, ce qui m'avait motivé, c'était effectivement d'assouvir un rêve, une passion. Et en même temps, je me disais, il y a le côté aussi pas mal de partager en fait ce qu'on fait, c'est-à-dire que de renvoyer un peu l'ascenseur. Moi, quand j'expliquais, hein, plus jeune, j'allais sur les meetings, c'est en allant sûrement sur ces sites de démonstration, de discuter avec les pilotes, d'échanger. Ça a nourri ma passion, ça a pu aussi, comme j'expliquais, au départ, moi, je pensais que j'étais trop grand pour aller faire pilote, donc ça se trouve, peut-être je me serais orienté sur autre chose, et en fait, non, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, non, mais voilà, regarde, oui, t'es un peu grand, mais ça devrait le faire, et ainsi de suite, et je me suis dit, c'est quand même, ça peut être pas mal d'aller maintenant, après 10 ans d'armée, d'avoir partager un peu son expérience, et puis justement, susciter des vocations, parce que, voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir, moi, de pouvoir transmettre et partager ma passion. Et donc là, du coup, l'EVA, finalement, ça regroupait un peu toutes mes attentes, c'est-à-dire à la fois ce côté partage, le côté poursuite du rêve, parce que quelque chose que t'as envie, et en même temps la compétition avec voilà toujours rester dans quelque chose de challenging, de performant, parce que tu sors d'un escadron de chasse, tu voles, t'as une recherche de performance. Et donc je me dis bah là finalement il y a toujours il y a un triptyque qui est pas mal quoi, c'est-à-dire que c'est souvent ce que les gens nous comprennent pas hein. Des fois ils nous disent mais ça vous embête pas de passer d'un gros mirage sur enfin voilà, pour les gens c'est un tout petit avion léger, et c'est ce que je leur dis, je dis ouais mais non, mais en fait on reste dans la performance, c'est pas du tout effectivement le même domaine de vol, mais un mirage ou enfin un extra sur lequel je vole, il y a vraiment ce côté performance, et donc c'est vrai que pour ça c'est vraiment une transition qui est sympa. Et maintenant effectivement je regrette pas du tout en tout cas le choix que j'ai fait, et maintenant c'est vrai que j'ai un peu ce à fois ce rôle d'ambassadeur armé de l'air, c'est-à-dire sur les meetings et les démonstrations d'aller représenter l'armée de l'air au travers la discipline qui est la voltige aérienne, et en même temps le côté performance et compétition avec l'étiquette de sportif qui participe aux compétitions quoi.
Ouais, mais c'est assez inspirant je trouve, tu vois, cette double casquette un petit peu que vous pouvez avoir effectivement entre l'armée et la partie performance. Je trouve que c'est une chose, enfin c'est vachement intéressant. Mais qu'est-ce que tu gardes concrètement de l'armée? Alors j'imagine qu'il y a une culture militaire, j'imagine que vous gardez cette rigueur, un certain état d'esprit, le des valeurs aussi comme le respect. Et mais j'imagine que vous êtes beaucoup moins je sais pas, peut-être sous pression, ou beaucoup moins quel serait le bon mot pour poser une question vraiment précise. Qu'est-ce qui se garde, si tu veux, d'un passage entre l'armée de l'air typiquement et le VA, c'est quoi, il y a plus de mission déjà, j'imagine, enfin plus de mission en tout cas militaire, ça c'est donc plus de départ. Alors, à 5h du matin
Oui et non, parce que en fait le VA, ça fait partie de l'armée de l'air, hein. Donc on reste
bien sûr. Mais justement.
En fait, c'est une affectation vraiment comme on pourrait être affecté dans une autre unité.
Oui, pardon.
Et puis les gens peuvent être amenés aussi à repartir en unité derrière, quoi. Donc ça, c'est aussi souvent c'est ce qui se passe notamment avec les pilotes de la patrouille de France, hein. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils font 4-5 ans et après ils repartent en escadron. Nous, la particularité, c'est qu'on y reste un petit peu plus longtemps parce que, justement, il y a cet aspect compétition qui prend, je pense qu'on pourra développer dans une deuxième partie, mais qui prend vraiment du temps, hein, c'est un sport de haut niveau, donc, il faut emmagasiner de l'expérience et de la pratique. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on garde de l'armée? Je vais dire tout.
Des choses qui n'avaient plus, en fait. J'aurais dû poser la question comme ça, quoi.
Mais en fait, c'est juste que c'est ce que j'explique aux gens. J'ai finalement le VA, c'est un échantillon, c'est un mini escadron. C'est-à-dire qu'en gros, on montre au public un savoir-faire. C'est-à-dire que quand je dis savoir-faire, c'est autant sur le côté pilotage, mais c'est aussi la partie mécanique et comment aussi on gère l'unité. Et en fait, globalement, on s'inspire du fonctionnement des autres unités, de ce qu'on a connu nous en unité, pour l'appliquer chez nous. Mais sauf qu'au lieu de faire voler un Rafale ou un avion de transport en A400M, ben on fait voler un extra. Donc forcément, on va le dimensionner à sa juste valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Le but là, c'est, il n'est plus de question de faire comme si on conduisait une Formule 1 alors que on conduit une voiture légère. Bah là, c'est pareil,
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Là, c'est la même chose. On dit, on, bah voilà, nous, c'est des avions de voltige, c'est des avions légers, donc on dimensionne le fonctionnement autour de ça.
Ouais,
donc okay. C'est une petite équipe, on est 17 personnes tout compris, hein, pilote, mécanicien, voilà, une escadron c'est voilà 30, ça peut être une trentaine, quarantaine de pilotes, 100-150 mécanos. Bon bah voilà, nous on n'a pas besoin de 100 mécanos pour faire marcher nos trois avions. Mais dans l'esprit, on reste le fonctionnement ouais. reste le même et finalement c'est juste qu'on encore une fois on parlait de méthode tout à l'heure, bah en fait on transpose la méthode un écosystème qui est un petit peu différent, qui est bah, faire évoluer un avion de voltige, que ça soit devant un public ou dans le cas d'une compétition. Et pour ça, bah, en fait, nous quand on se déplace finalement, alors oui effectivement quand tu disais les missions au sens c'est voilà les opérations extérieures, ça effectivement on va dire qu'on est un petit peu dédouané là-dessus, mais par contre bon bah dès qu'on se déplace, qu'on fait un meeting ou qu'on est en représentation d'une certaine manière, c'est une mission. En fait, ça fait partie des missions de l'armée de l'air que finalement de rayonner, d'aller un peu exposer son savoir-faire. Bon, bah là, pour nous, c'est surtout pour le public et voilà susciter des vocations. Mais après, il peut y avoir aussi, par exemple, pour le cadre d'un Rafale, bah, un petit peu de soutien technologique. Enfin voilà, c'est chaque domaine peut trouver un point d'accroche là-dessus. Et en fait, nous, l'avantage, c'est que le VA, c'est un outil, c'est ce que je te disais, c'est vraiment un petit couteau suisse des équipes de présentation. Pourquoi ? Parce que, en gros, on utilise une discipline qui a été d'ailleurs pratiquement inventée par des Français, hein, la voltige aérienne. En fait, on, au travers de valeurs qui sont la performance, le sport aérien, ben en fait on va essayer de démontrer un savoir-faire, dire bah regardez nous les pilotes de chez nous ils rentrent au départ ils sont pas voltigeurs et c'est le cas, mais par contre grâce à la formation qu'ils reçoivent derrière, bon bah quand on les met sur des avions de voltige, ça marche plutôt bien et ça fait quelque chose de performant et c'est un petit peu finalement l'idée qui doit en ressortir de la chose. Et l'avantage c'est que nous, on peut vraiment se déplacer partout. Un avion de voltige, c'est des petits avions légers. Ça peut se poser sur une piste de 3 km comme sur un terrain en herbe de 600 mètres. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'aller sur tout type de manifestation aérienne. C'est-à-dire que autant voilà des gros airs chauds ou peut-être même nous, des fois, on aura un peu moins de visibilité par rapport effectivement à des formations comme la Patrouille de France ou un gros jet qui va passer. Après, bon, voilà, on a nos publics, nos connaisseurs, mais on va pouvoir aussi aller sur des petits terrains, là où les grosses machines peuvent pas forcément se poser, et assurer une présence, aller au contact des gens sur place. Et ça, c'est pas mal parce que finalement, ça permet vraiment d'aller toucher un peu la population vraiment partout, quoi.
Ok. Ok. Oui. Bah, en tout cas, c'est. Enfin, je trouve ça. Enfin, je trouve que c'est une super représentation, en fait. Je sais pas s'il y a ça dans toutes les armées, mais c'est vrai que ça, vous devez donner des étoiles dans les yeux à plein d'enfants, et je faisais partie de ces enfants-là. et pour avoir fait quelques meetings avec mon papa et regarder effectivement des vols, j'en garde des souvenirs impérissables, tu vois. Et il y a des petits rituels aussi un peu qui peuvent paraître ridicules, mais moi tu vois un 14 juillet c'était un moment que je ne loupais pas, que je passais avec mon papa, et on avait des jumelles et mon père m'expliquait chacun des avions qui passaient, quel type c'était, à quoi ça servait, et en fait cette chance là effectivement ça crée des passions, et j'imagine que toi avec le côté sportif et complètement impressionnant, ça doit rajouter vraiment une dimension. Mais vu qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, là c'est bon, je pense qu'on a bien posé le cadre.
Ouais,
on a été bavard, mais il y a plein de sujets qui m'intéressent, notamment autour de la performance, de la préparation. Donc on l'a compris, le but est que tu fasses des figures absolument impressionnantes, et du coup ton corps subit des choses absolument, enfin des sensations je pense extrêmement fortes, avec une pression qui doit être d'ailleurs c'est combien de G, je sais pas, tu peux tu peux recevoir. Alors c'est peut-être pas les jets qui sont le plus impressionnant, mais plutôt le nombre de tours que tu peux faire sur toi-même ou le nombre de tonneaux qui va être vraiment impressionnant.
Ouais, bah c'est la combinaison de tout ça. En fait, un avion de voltige moderne maintenant, c'est un avion qui peut encaisser des facteurs de charge de 10G en fait, donc plus 10 moins 10. Donc c'est donc alors quand on parle de G positif, c'est ce qu'on va là, c'est vraiment on peut faire une analogie avec ce qu'on retrouve sur les avions de chasse, c'est-à-dire c'est dès lors que l'avion va changer de trajectoire quand on tire sur le manche, hein, tout simplement, lui l'avion va partir sur une courbe et cette courbe va faire que la force centrifuge va vouloir nous éjecter à l'extérieur de la courbe, sauf que forcément nous on est assis sur un siège et donc ça nous empêche de sortir de l'avion, mais du coup on va se retrouver complètement écrasé dans le siège. Et donc, on va avoir de vitesse, plus on va tirer fort, plus on va subir ces jets, et ça va avoir tendance à faire descendre la masse sanguine dans les jambes. Et donc, en gros, on connaît un petit peu les phénomènes, hein, c'est-à-dire que si c'est maintenu trop longtemps, le cerveau est moins irrigué en oxygène. Donc, il y a un moment, on commence un peu à avoir des, ce qu'on appelle des signes de perte de connaissance, et puis effectivement si on maintient la chose ça peut aller jusqu'à cet état là donc effectivement
tu peux t'entraîner à retarder un peu cet effet là.
Ouais, désolé, tout à fait.
Moi, je te coupe, mais
non, mais tout à fait. Mais en fait, curieux. Oui, en gros, grâce à un travail musculaire, hein, c'est de pouvoir contracter en fait les jambes et les abdos. En fait, c'est de faire un effet garrot sur le système vasculaire. Pour limiter en fait avec après des manœuvres de respiration, on apprend ça justement quand on est en chasse avec passage à la centrifugeuse pour vraiment essayer d'appliquer les meilleures manœuvres.
Ouais.
Après sur les avions de chasse, on a des pantalons anti-G, c'est des sortes de surpantalons qu'on met par-dessus la combinaison et qui vont en fait se gonfler d'air et donc pareil qui vont venir comprimer les membres inférieurs, voilà. Okay. Alors ça par contre en voltige, on n'en a pas parce que c'est un système qui est quand même relativement lourd et nous on vole sur des machines qui sont très légères, hein, qui font 600 kilos, donc si on commence à rajouter tout un tas de dispositifs, le truc ça va peser une tonne et c'est pas le but.
Donc votre avion est plus léger que j'ai pas envie de citer de marque de voiture, mais c'est une berline, ça doit faire à peu près ce poids là.
Une berline, ça fait plus d'une tonne.
Ouais, c'est ça, hein, ça fait plus d'une tonne, ouais. Ouais, j'avais un souvenir, ça. Effectivement. Ouais,
Donc, nous, on est à 600 kilos, c'est le moitié moins qu'une voiture.
Petite voiture, quoi. OK. Ouais. Ouais, OK.
Et par contre, voilà, il y a un moteur qui est assez puissant, hein, qui fait plus de 300 chevaux dessus, donc il y a un rapport poids-puissance qui est assez intéressant.
Ouais,
Et donc effectivement, on a ces G positifs quand on tire, hop, le sang descend dans les jambes, donc là il faut contracter. Et à l'inverse, nous on va avoir aussi ce qu'on appelle des G négatifs, c'est-à-dire que en fait on va avoir l'effet complètement inverse quand on se met à pousser sur le manche pour certaines figures. Donc là en fait finalement l'avion, qu'est-ce qui se passe? Il y a des crimes courbes mais par l'extérieur. Et là, c'est comme si en fait la force centrifuge voulait nous éjecter mais par le haut. Sauf que là on est retenu pareil par le harnais. Et donc là, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en fait, lui, par contre, tout le sang va vouloir lui sortir, mais il y a un moment, il monte, il y a la tête qui bloque. Donc par contre, là, c'est comme si en fait, on avait tout le sang qui voulait rentrer au niveau du crâne, quoi. Donc c'est ce que je dis en rigolant, c'est comme si on vous mettait un karcher, on arrivait à brancher un karcher au niveau du pied, là, puis on envoie une petite impulsion. En gros, ça fait un coup de bélier, quoi. Hein, donc. Je sais pas, la masse sanguine, je sais pas combien ça représente, mais forcément, tout peut pas rentrer dans la tête. Donc, forcément, plus on va pousser, plus ça va être, la pression va être importante. Et, plus, en fait, la pression de la masse sanguine au niveau du crâne va être aussi important. Et donc, ça, c'est, on va dire, l'effet un peu moins agréable des jets. Après, on s'y habitue, hein, mais c'est vrai que ça, au départ, il faut y aller mollo parce qu'on peut sortir avec des bons mal de crâne. Pardon.
Donc c'est la surventilation, c'est vraiment la pression du sang, la suroxygénation du cerveau qui va provoquer ça, ou c'est vraiment la pression du sang qui fait que tous les vaisseaux sanguins en fait se dilatent pour.
Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait lui c'est la pression, hein, tout simplement, hein, c'est un liquide et on essaie de faire rentrer tout le liquide dans un espace qui est trop trop petit, quoi. Donc non. Effectivement, après, le corps, lui, ça s'adapte, hein. Il est vraiment là-dessus, il est bien fait. Effectivement, il va y avoir une vasodilatation des vaisseaux. Lui, le cœur, bah, comme on lui facilite le travail, hein, en disant, bah tiens, j'ai plus besoin de travailler pour monter l'oxygène au cerveau, bah il se met à ralentir.
D'accord.
Et voilà, mais c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement, parce que comme tout, faut qu'il apprenne un peu à composer avec ça. Et puis une fois qu'on est habitué, bah on se rend compte que le même le corps anticipe presque, voilà, la fraction de seconde avant de prendre les jets. Il y a presque une anticipation du corps sur la manœuvre. Donc ça, après, bah voilà, il faut composer avec ça. Et ça, en fait, en voltige, c'est vraiment finalement qu'on soit bon ou mauvais pilote. Ça, c'est vraiment une contrainte. C'est lié à la gravité terrestre et on peut rien y faire, quoi. Donc ça, déjà, en gros, on va tirer sur le manche, on va être écrasé dans le siège, on va pousser, on va se retrouver pendu dans les bretelles. Voilà. Donc ça, ça, c'est la première contrainte. Après, il y a effectivement le taux de roulis de l'avion, c'est-à-dire c'est la vitesse à laquelle l'avion va réaliser un tonneau, hein, une rotation sur lui-même. Et en fait, sur ce genre de machine, c'est de l'ordre de 420 degrés par seconde. Donc 360 degrés, c'est un tour, voilà, un tonneau complet. 420, ben on est quasiment déjà à un tonneau et demi, quoi. Donc, en gros, il faut imaginer qu'en une seconde, si je mets le manche en plein débattement d'un côté ou de l'autre, lui, l'avion, une seconde après, il a fait déjà quasiment un tour et demi sur lui-même, quoi.
Ça, c'est en rotation. C'est complètement dingue. En une seconde, c'est fou.
C'est très rapide. Et donc ça, effectivement, bah ça crée des sollicitations au niveau de l'appareil vestibulaire qui sont quand même assez voilà, c'est comme dire rigolant, c'est comme si on montait dans le tambour de la machine à laver en mode essorage. Et donc ça, bah il faut les appréhender. Encore une fois, au début, bah c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour l'organisme. Et puis petit à petit, on s'y fait et on apprend à trouver des bons timings pour pouvoir, parce que forcément, nous, le but, ça va être de composer avec toutes ces capacités de manœuvre pour faire en sorte que l'avion, lui, réalise les figures qu'on va lui demander de manière extrêmement précise, hein. En gros, c'est quasiment au degré près. Donc, il faut composer avec toutes ces contraintes, hein, parce que là, pour l'instant, on a juste finalement parlé de contraintes pour pouvoir ensuite, derrière, aller chercher de la précision, quoi.
Ok. Et j'avais plein de petites questions par rapport à tout ça. Alors c'est peut-être une question bête, mais ça m'est passé par la tête et je me suis dit peut-être que c'est pas une question si bête, mais est-ce que la sensation justement que tu décrivais avec les G ou la sensation du roulis, c'est une sensation que tu peux avoir uniquement en altitude dans un avion ou dans une centrifugeuse, ou est-ce qu'il peut y avoir, ou est-ce que tu peux le simuler d'une autre manière, d'une manière quelconque? Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je me suis dit non, c'est une question bête, c'est pas possible. On peut pas, c'est pas possible. Enfin, physiquement et il faut forcément de l'altitude et de la vitesse. Mais
En fait, les G, ouais, tu peux pas par. Après c'est souvent quand on parle d'accélération, mais quand on est en voiture, en fait, ouais, on va avoir des G qui s'appliquent, mais ils sont pas appliqués sur le même, sur le même axe, c'est-à-dire que souvent ça va être on va être écrasé, enfin en gros ça va être
écrasé
vers l'avant, voilà, vers l'avant ou vers l'arrière. Nous en fait c'est vraiment sur la verticalité que ça s'applique. Ouais. Et donc pour ça, il peut y avoir effectivement, il y a quelques petites attractions là, des fois où on peut prendre quelques G comme ça, mais souvent tout, c'est limité, ouais. Et puis après le roulis. Non, ouais, le truc qui si c'est le côté quand on s'amuse à tourner autour d'une batte de baseball, quoi, par exemple, là où on regarde le sol qu'on tourne très très vite, et puis on est un peu, quand on se relève là, on est un peu désorienté, mais ouais, ça c'est pas, non, il y a pas de, je pense, de choses qui pour l'instant arrivent à reproduire ce mouvement, quoi.
Ok, c'est hyper intéressant, et donc tu me disais que tout ça, on peut quand même se préparer et s'entraîner pour ralentir les effets. Donc t'as parlé de, effectivement, peut-être de gainer ou de contracter tous les muscles avec des techniques de respiration.
Ouais.
À quelle fréquence toi tu vas faire par exemple ce type d'exercice, et est-ce que tu en fais encore? Et en fait, je me demandais aussi s'il y avait des aptitudes physiques, tu vois, qui pouvaient en fait te prédisposer à être plus facilement résistant par rapport à ça. Tu vois, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que Je sais que très souvent les athlètes de haut niveau, bon là tu pratiques un sport quand même qui est très particulier, mais les athlètes de haut niveau n'ont pas conscience de à quel point en fait l'anatomie peut être importante dans leur sport et à quel point en fait les aptitudes physiques un petit peu on va dire innées changent complètement la donne, tu vois. Et du coup je me demandais s'il y avait des similarités, tu vois, pour un pilote, tu vois, est-ce qu'il y a des, en tout cas pour la voltige, vu qu'apparemment ça a l'air quand même très 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 sensoriel et que ça apporte énormément de sensations, hein. Pour avoir pris l'avion quelques fois, je vois tout de suite ce dont tu parles. Et j'ai pas pris d'IG, clairement pas. Mais du coup, ouais, est-ce qu'il y a des prédispositions, tu vois, par rapport à ça? Est-ce que ça s'étudie? Enfin, j'imagine votre corps doit être un merveilleux terrain d'exploration pour certains médecins. Je sais pas, mais
on nous fait courir en cage dans des petits trous comme des hamsters.
La première question, oui. C'était comment est-ce que toi tu te prépares? Comment tu te préparais? À quelle fréquence? D'ailleurs aussi, il y a peut-être d'autres exercices. Et est-ce que il existe des aptitudes physiques par rapport à tout ça?
Ok. Alors sur la partie préparation pour la résistance au G. Après, ça se fait vraiment dans l'avion, c'est-à-dire qu'une fois que les manœuvres, on les connaît, on les fait vraiment sur certaines figures. Moi, après, je le fais pas tout le temps parce que tout va dépendre du moment, enfin de combien de temps je vais subir le facteur de charge. En fait, en voltige, on n'a pas de pantalon anti-G. Après, l'utilisation de la machine fait que les G, heureusement, on les prend pas très longtemps. C'est-à-dire que souvent, c'est de l'ordre de quelques secondes parce que nos trajectoires, c'est des changements très rapides, donc. Pour moi, si je tire, si c'est quelques secondes, la manœuvre, j'ai quasiment pas besoin de la faire parce que ça va plus me pénaliser qu'autre chose. Après, sur certaines figures où là, on sait qu'on va prendre du G pendant un certain temps, là, par contre, on l'anticipe et effectivement, on va contracter les cuisses et les abdos et voilà. Mais c'est identifié à l'avance et on l'utilise de manière ciblée. Après, sur la préparation, on va dire que il y a un côté à la fois préparation pour justement tout ce qui est contrainte physiologique. Et donc pour ça, c'est vraiment du travail de fond. Donc maintenant, ils développent de plus en plus ça, même au niveau pour les pilotes de chasse, c'est du renforcement musculaire sur les muscles profonds, du gainage. Travail de tout ce qui est postural, beaucoup de travail de postural pour justement, ça c'est plus pour sur le long terme, quoi, pour éviter à chaque fois, parce que quand tu te prends des jets, tout se tasse, c'est d'éviter.
Qu'est-ce que t'appelles le travail postural? C'est du gainage de dos? C'est
du travail des muscles profonds, vraiment. Ouais, okay. Sur des exercices ciblés et pour vraiment essayer d'avoir une coque le plus gainé possible, en tout cas. Après on n'est pas au niveau des gymnastes non plus, hein, faut pas exagérer, mais on sait qu'avec un entretien régulier, ça va permettre, c'est surtout de quand on arrive à 40-45 ans, de pas être criquet partout au niveau du dos, parce que on est assis souvent, on est quand même dans des positions qui sont pas hyper ergonomiques et on se rend pas forcément compte comment on place notre tête, donc on sait que les répétitions de ces choses-là peuvent avoir une incidence. Et effectivement, on voit que les gens qui s'entretiennent un minimum là-dessus, 40, 45 ans, on est encore nickel pour pratiquer ça. Ouais. Ensuite, effectivement, il va y avoir un renforcement de certains muscles. Effectivement, on se rend compte que les gens qui sont plutôt qui ont une certaine masse musculaire sur les cuisses, les abdos, qui ont un peu de volume, naturellement ça va aider à avoir un effet garrot plus important sur le système vasculaire. En fait, on dit que par exemple, il faut éviter d'avoir tout ce qui est aérobie, c'est-à-dire vraiment la capacité d'aérobie. En gros, un mec qui va faire beaucoup de marathons, des choses comme ça, va avoir un cœur qui va ralentir naturellement. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est surtout, c'est pas mauvais, mais on veut que le cœur soit très réactif. C'est-à-dire que si on prend du facteur de charge positif, le cœur, lui, il faut qu'il accélère. Et si le cœur n'accélère pas, ben en fait, il va pas pouvoir pomper suffisamment le sang pour pouvoir le remonter. Donc en fait, on va plutôt rechercher, si on va dire, des sports un peu style squash, badminton, des choses un petit peu explosives qui font, voilà, un peu qui font travailler le cœur de manière un peu fractionnée. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend pour qu'il soit quand même assez réactif. Donc plutôt en je dirais plutôt en puissance d'aérobie que sur de la capacité. Après. Okay. Après là, on va commencer à partir vraiment sur le côté performance. Là après, effectivement, on va pouvoir commencer à travailler. Donc là, finalement, j'ai juste parlé de la préparation physique, en tout cas pour ouais. juste moins subir les contraintes. Mais là, je veux dire, comme j'expliquais tout à l'heure, qu'on soit un bon ou un mauvais pilote, là, ça va rien changer quoi. Là, pour l'instant, on n'est pas en train de réaliser un programme. Maintenant, après, pour le côté vraiment optimisation de la performance. Et ben on va pouvoir commencer à travailler de la force et notamment de l'explosivité. En fait, c'est un pilotage qui est très explosif où il faut être très précis, où il y a presque des fois des phases en isométrie. En fait, l'avion, hein, comme j'expliquais, il est très c'est vraiment une sorte de pur sang, c'est-à-dire que il a des très grosses capacités, mais il faut quasiment tout le temps le tenir parce que ouais. la moindre action, ça se traduit par l'avion qui bouge. Et ouais. ça, en fait, quand on voit un avion de voltige évoluer, souvent les gens ils sont bluffés par le côté la netteté, quoi, c'est-à-dire de l'arrêt. Et c'est vraiment ce qu'on va rechercher, c'est-à-dire que ça tourne très 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 vite. Et puis d'un coup, paf, ça s'arrête. Et puis on a vraiment l'impression que ça vient taper presque dans un mur. Et en fait, il n'y a pas de mur en vol. Hein. Et donc le mur, bah, c'est le bras qui est venu s'arrêter de manière quasiment instantanée. Et donc pour ça, bah, il faut à la fois tenir le manche, c'est-à-dire que si au moment où ça s'arrête, le manche bouge un petit peu, bah hop, l'avion lui va bouger. Et donc pour ça, bah, il faut travailler à la fois le côté explosif et puis le côté force, tout simplement pour pouvoir accélérer et décélérer les commandes de manière ben, plus rapidement possible. Hein. C'est presque comme un art martial, quoi. Quand on voit un karatéka qui donne un coup de poing, c'est très explosif. Ben, nous, les actions sur les commandes vont être un peu dans cet esprit-là. Ouais. Donc ça, pareil, ça peut être aussi une phase, une recherche, enfin voilà, de développer ses qualités. Maintenant, sur est-ce qu'il y a des prédispositions? Oui, carrément. C'est-à-dire que pour tout ce qui est facteur de charge, on sait que, en fait, ça c'est prouvé, que plus on va avoir la distance entre notre cœur et notre cerveau qui est réduite, mieux on va pouvoir supporter. Donc, en gros, concrètement, ça se traduit par quoi ? Ben, c'est plutôt les gens qui sont petits vont avoir plutôt une prédisposition à mieux supporter les facteurs de charge ouais. que les gens qui sont grands. Voilà, donc notamment, bah, par exemple, les femmes qui ont généralement des tailles un peu plus petites que les hommes, eh bien, vont souvent mieux supporter les facteurs de charge que voilà les grandes personnes. Moi, par
exemple, est-ce que ça veut dire que typiquement quelqu'un qui va mieux résister à un facteur de charge va pouvoir enchaîner peut-être plus de tonneaux ou plus de roulis, tu vois.
Bah, c'est surtout qu'en fait, parce que finalement, facteur de charge et roulis, ça c'est pas très lié, mais c'est le fait que comme on va en subir en tous les cas, ouais. bah, il y a un moment où plus on subit la chose, moins, enfin, en plus, comme j'expliquais, hein, le problème du facteur de charge, c'est que ça fait diminuer la quantité d'oxygène dans le cerveau. Donc, moins le cerveau est irrigué, moins il va pouvoir être lucide. Et moins ouais, il va pouvoir réaliser les choses. Donc en fait, plus on va subir, bah, en gros, plus on va encaisser et moins on va être efficace. Enfin, on va perdre en efficacité. Voilà. Donc tu vois, bah, moi je fais 1m90, donc je suis tout l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en gros, bah, moi je suis plutôt un grand. Donc bah, moi je vais ramasser un peu plus que quelqu'un qui fait 1m60, quoi. Donc pour ça, bah, moi je suis obligé de compenser quand même pas mal justement par de la musculation. Et donc ça c'est la deuxième phase, c'est le côté musculature naturelle, c'est-à-dire quelqu'un qui va être plutôt un peu trapu de manière génétique, bah ça veut dire qu'il a déjà une masse musculaire qui est plus importante. Donc naturellement, bah ça va l'aider également à mieux résister aux facteurs de charge. Donc en fait dans l'inconscient collectif, on dit qu'il vaut mieux être un petit trapu qu'un grand longiligne. Voilà.
Ok.
Voilà, moi, je suis plutôt grand longiligne. Voilà. Mais bon. Okay. Après, ça ne s'empêche pas non plus de performer.
Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, justement, puisque tu parles performance, j'ai l'impression que tu as eu une trajectoire très rapide à partir du moment où tu as commencé à faire de la voltige et le moment où alors j'ai vu qu'il y avait différentes catégories, il y avait élite, excellence, alors je sais plus le et que bah quoi seulement 2 ans après ton début, on va dire, de la pratique en club, c'est écrit tout petit sur mes fiches, donc j'arrive pas à voir, là, j'ai le micro qui est trop loin, mais ouais, c'est allé à une vitesse folle, en fait, ta capacité à obtenir des titres, et notamment le titre que t'as eu en 2015, si je dis pas de bêtises, de champion du monde. Qu'est-ce que t'as apporté, en fait, justement, enfin, j'imagine que vous êtes tous militaires, donc vous avez tous une super rigueur, mais comment est-ce qu'on ajoute une touche de performance, en fait, là-dedans? Comment est-ce qu'on ajoute une touche de compétition, est-ce que tu t'es inspiré de, je sais pas, d'autres athlètes, d'autres sportifs, quels sont les autres éléments, en fait, que t'as ramené, en fait, à ta pratique pour, tout simplement, pour performer et pour devenir le meilleur dans ton domaine?
Alors, juste correction, on n'est pas tous militaires, en fait. Alors, moi, je pratique dans l'armée parce que effectivement, on a cette unité.
C'est deux choses différentes.
Mais voilà, en fait, après, il y a l'équipe de France de voltige qui, elle, est une structure civile. En fait, la comparaison qu'il faut avoir, c'est finalement comme dans ce qui se fait dans beaucoup de sports de haut niveau, c'est-à-dire que l'armée, elle est finalement présente dans le monde du sport de la, enfin, la défense est
très présente,
dans le sport de haut niveau. Elle forme des sportifs. Mais après, les fédérations, les équipes nationales, elles dépendent des fédérations, des fédérations de chaque discipline. Et finalement, là, dans ce cas-là, l'armée est comme au même titre qu'un club qui va fournir ses athlètes. Sauf que, après, il y a un directeur technique qui, lui, va aller piocher ses pilotes ou ses athlètes dans les structures qui jugent bonnes pour pouvoir avoir des athlètes en équipe de France. Donc finalement, la voltige à la base, c'est quand même une affaire civile, dans le sens où toutes les compétitions, et comme j'ai 99% des pilotes de voltige au monde, sont des pilotes civils. Hein. En fait, finalement, on est que 5 pilotes à être militaires et à faire ça, quoi. Voilà. Donc, pour remettre la chose. Donc, il n'y a pas de compétition militaire. C'est vraiment, comme j'ai, nous, l'armée, c'est juste que l'armée est attachée au sport de haut niveau. Et bon, forcément, logiquement, il y a un sport de haut niveau qui est un sport aérien. Bon, c'est l'armée de l'air qui on va dire, en est l'ambassadrice, en tout cas pour le côté militaire. Voilà, ça c'est juste pour remettre un peu les choses.
J'ai fait un petit peu, si tu veux, je suis allé déjà beaucoup trop vite. Il y a quand même de manière objective beaucoup de pilotes de chasse ou d'anciens pilotes dans l'équipe de France, et effectivement, j'ai fait un parallèle qui était
après mais c'est vrai qu'après, bon, comme je dis, on tombe pas dedans par hasard non plus, donc c'est forcément mais tu vois, en équipe de France, il y a les autres pilotes sont pilotes de ligne, après il y en a qui sont aussi voltigeurs professionnels, mais civils, voilà, c'est quand même assez orienté aéronautique, quoi. C'est normal. Donc ensuite, pour en revenir à ce que tu disais, pourquoi la progression, effectivement, ça par contre, je pense que moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment la méthode que j'ai apprise avant, c'est-à-dire la méthode que j'ai apprise en escadron de chasse, enfin même ma formation, parce que finalement j'ai réussi à la transposer dans cette discipline, c'est-à-dire la façon, je pense, d'analyser les choses, essayer de comprendre comment là où il faut s'améliorer, là où il faut travailler. Et ça, je pense qu'effectivement là-dessus, le côté militaire aide, parce que en fait, ça te donne une méthodologie de travail qui fait que si tu l'appliques dans un domaine, en tout cas aéronautique, généralement tu vas pouvoir te poser les bonnes questions et savoir là où il faut bosser. Donc forcément, après, là, la déclinaison, c'est comme tout sport, je pense, il y a le côté à la fois technique. Donc, il faut emmagasiner de l'expérience, la technicité sur la réalisation des figures. Donc ça, pour ça, il y a l'entraînement. Après, effectivement, j'ai essayé de mettre en place, de profiter de tout ce que je pouvais pour pouvoir progresser, en tout cas, le plus rapidement possible. Donc ça, c'est de l'investissement, hein, c'est-à-dire sur chaque entraînement, bien débriefer, bien comprendre ce qui se passe, utiliser des vidéos, regarder les autres volets, vraiment observer pour se faire sa sa petite popote et puis développer sa technicité. Mmh. Ensuite, le deuxième chose, c'est la partie physique. Ça, on en a un petit peu évoqué. C'est vrai que là-dessus, comme je disais, la voltige, je pense que c'est un sport qui à la base est né, mais les gens qui la pratiquaient n'étaient pas forcément des sportifs dans l'âme, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt pilotes avant tout, et puis bon, bah ils se mettaient à faire de la voltige. Ouais. Sauf qu'en fait, les machines ont quand même pas mal évolué depuis ces quelques années, et donc du coup, maintenant, c'est vrai qu'elles ont des performances qui sont assez énormes, mais elles sont de plus en plus exigeantes physiquement. Ouais. Et moi, je me suis dit, c'est vrai que je pense que si tu développes le côté physique, tu vas justement gagner à la fois en efficacité dans ton pilotage, mais aussi en lucidité. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que moi, c'est un aspect que j'ai vraiment pas négligé et sur lequel, en fait, même encore maintenant, j'essaie vraiment de porter beaucoup d'attention. C'est sur la préparation physique, parce que je me suis rendu compte que effectivement, mieux t'es dans l'avion, en fait, moins tu subis le truc, plus t'as des cases de dispo pour comprendre ce qui se passe, analyser, et donc en fait, c'est vertueux pour le côté technique, parce que plutôt que te prendre un truc où tu te prends, je sais pas combien de G, ça tourne dans tous les sens, et puis tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, ou je comprends pas, machin, et tout ça, en fait, plus tu vas avoir une résistance, plus tu vas pouvoir être capable d'encaisser les choses, aussi, plus tu vas être aussi, tu vois, ne serait-ce que quand tu fais des exercices de muscu, si tu commences à essayer de conscientiser tes mouvements et ainsi de suite, derrière, quand il faut aller étudier un mouvement que tu fais dans l'avion, c'est beaucoup plus simple de comprendre les actions à faire, parce que c'est du pilotage hyper fin, des fois ça joue à quelques centimètres de placement de manche, de pied, ainsi de suite, et là-dessus, c'est sûr que si tu as développé cette conscientisation de ton corps, t'es plus à même après d'apporter des petites corrections, plutôt que dire, j'ai l'impression de mettre le manche là, mais en fait, tu sais même pas, ou t'as même pas le temps de le comprendre. Et là, en fait, t'es beaucoup plus, en fait, t'es un peu plus en recul sur ce que tu fais. Enfin, t'arrives vraiment à te poser et vraiment analyser les choses. Et puis après, la troisième chose, c'est la partie mentale. Pareil, c'est maintenant le triptyque du sport de haut niveau. La voltige, en fait, c'est vraiment quand on est vraiment sur des niveaux très très élevés, la technique, à la fin, on a quasiment tous le même niveau, à peu de choses près. Et ce qui va faire la différence, clairement, c'est je pense, la disponibilité et la capacité mentale quand on va être en train de réaliser un programme. En fait, la voltige, paradoxalement, c'est un truc où quand on vole, on part finalement, avant de faire la figure, on a 10, et en fait, c'est un peu comme au patinage, c'est-à-dire que on est noté sur les erreurs, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on part sur la figure, on part sur la figure théorique parfaite, et puis au fur et à mesure qu'il y a des petites erreurs qui sont commises, on nous enlève des points. Et c'est vrai que ce système-là, c'est assez, ça peut vite être oppressant, parce que on peut vite développer la peur de l'erreur, quoi. Alors qu'on sait très bien qu'en côté mental, c'est vraiment ce qu'il faut éviter, quoi, parce que tu travailles plus pour le plaisir, enfin, tu sais, pour le côté de bien faire, mais pour la peur de mal faire. Et donc, si tu commences à trop t'orienter là-dessus, effectivement, en compète, ça va te créer des rigidités, parce que t'as peur de montrer des erreurs, et je pense qu'il faut travailler. Enfin, en tout cas, c'est pas évident, parce que moi, c'est encore même maintenant, je travaille beaucoup là-dessus. Mais pour vraiment essayer d'être le plus lucide possible au moment de réaliser tes vols. Et donc, moi, quand je suis arrivé à l'EVA en 2011, j'ai repris la compète donc en 2012. J'en avais fait un tout petit peu, comme j'ai expliqué, en 2010 pour un peu m'initier. Donc là, en 2012, j'ai commencé à passer les premiers niveaux. En fait, en France, on a pareil tout un système de progression qui est vraiment bien fait, qui permet vraiment aux gens de partir vraiment du plus petit niveau et d'accéder au niveau de performance le plus élevé. Et ça, c'est bien, parce qu'il y a un côté à la fois sécurité pour justement exploiter des machines de plus en plus performantes. Et donc, en 2012, j'ai fait, on va dire, mes premières compètes qui se sont bien passées. 2013, je suis passé en catégorie monoplace. Et en 2014, je suis arrivé en équipe de France Unlimited. Donc, c'est la plus haute catégorie. Ça m'a permis de faire un championnat d'Europe pour pouvoir un peu, bah voilà, j'ai pris mes marques. Et c'est vrai que rapidement, en 2015, championnat du monde où c'était mon premier, et puis bah je suis j'ai réussi à le remporter, alors qu'effectivement j'étais un peu inconnu au bataillon. Mais je pense que c'est toutes ces expériences, à la fois sur le plan technique, la prépa physique, la prépa mentale, qui m'a aidé en tout cas d'arriver à vraiment optimiser cette progression, et puis d'arriver à rapidement avoir un résultat, quoi.
Ok. Ben écoute, c'est vraiment passionnant. Je me pose un petit peu la question, peut-être de manière un petit peu plus concrète, tu vois, et de manière un petit peu plus terre à terre. Tu vois, combien de fois tu vas être amené à t'entraîner sur une année, comment sont un peu organisées aussi tes semaines, tu vois, entre justement la prépa physique, la prépa mentale, les heures de vol. Comment est-ce que ça s'articule un petit peu sur une année, et puis peut-être pourquoi pas tu peux nous donner une semaine type. Alors j'imagine que on en parlait quand on s'est eu la première fois, effectivement il y a des stages de préparation où c'est beaucoup plus intense et vous faites quasiment que ça, j'ai l'impression, que voler, hein. Mais du coup, comment s'articule un petit peu une année et une semaine pour bien se préparer?
Ouais, ben écoute, l'année c'est simple, c'est en gros l'hiver, toute la partie hivernale, c'est entraînement, et puis on termine une saison, donc un peu de régénération à la fois humain et matériel, parce que les avions doivent être révisés. Ensuite, on rattaque on va dire à partir de janvier, où là on commence un peu à reprendre les vols, et la saison nous commence concrètement au mois de mai. Alors mois de mai, c'est les meetings, hein, c'est-à-dire que en plus de la compétition, on a des meetings quasiment tous les week-ends, donc on part à deux pilotes pour faire des démonstrations, et ça court jusqu'à octobre. Après les compètes, il y en a pas beaucoup, hein, c'est souvent deux par an, c'est un championnat de France et une compète inter, donc championnat d'Europe alterné avec championnat du monde, donc un an sur deux. Voilà, ça donne à peu près le tempo. Donc pour se préparer, eh bien en fait on va alterner des phases où on va dire faire du vol, du maintien, où on va voler un peu dans la semaine, quelques vols. Donc là, bah, ça va être l'occasion de travailler les différents aspects, parce qu'effectivement la voltige qu'on fait en meeting et la voltige qu'on fait en compète est un petit peu différente, donc il faut travailler les deux. Moi j'en profite généralement pendant ces semaines où je peux faire en moyenne peut-être un vol par jour, voire moins. Là par contre, effectivement, je vais mettre des séances de prépa physique par-dessus, donc en généralement c'est 3 séances de 2 heures, donc le lundi, le mercredi et le vendredi, voilà. Et donc, j'essaie de phaser un peu ce rythme. Okay. En parallèle, on a des petites tâches annexes, hein, parce que comme j'expliquais, on reste militaire, donc on peut avoir des sollicitations pour des visites, des gens qui viennent visiter l'unité, plein de choses, moi je suis responsable de l'unité, donc j'ai aussi des mails à traiter. Donc ça c'est la semaine, on va dire un peu calme. Et par-dessus ça, on va greffer des stages d'entraînement intensif, où là, en gros, on a un entraîneur qui vient sur la base à Salon. Ça dure pendant 5 jours. Et là, on va faire 2 vols par jour. Donc, c'est des vols de 20 minutes, où là, on va vraiment faire du volume pendant une semaine. Mmh. Et en fait, ces stages, on va en faire 5, en gros, à Salon. D'accord. Et en plus, on aura donc les stages après équipe de France. Donc là, avec l'équipe de France de voltige, où en fait, on va en avoir 5 autres. Donc, à peu près une dizaine de stages sur l'année. Donc,
et un là, stage, c'est environ une semaine.
C'est 5 jours. C'est 5 jours ouvrables, du lundi au vendredi. Okay. Et toi, typiquement, nous, on a fait notre premier stage la semaine dernière là, à Salon. Et là, cette semaine, c'était une semaine un peu plus cool. Et semaine prochaine, on remet le couvert avec de nouveau un stage. Et donc là, pendant la semaine de vol où on intensifie, on va vraiment mettre l'accent sur le côté vol. Donc là, la prépa physique, moi, je lâche un peu, parce que forcément, en fait, c'est un effort qui est très, comme je disais, très explosif. Donc on est vraiment sur, c'est vraiment de l'anaérobie à lactique, hein, ce qu'on fait dans l'avion. C'est-à-dire que c'est vraiment très très. Mais par contre, ça sollicite énormément le système nerveux. Ce qui fait que quand tu sors de 20 minutes, t'as fait 20 minutes, mais des fois t'as l'impression, quand t'enchaînes les vols comme ça, t'as vraiment une sorte de t'as pas une grosse fatigue physique, enfin t'as pas de courbature,
ouais, mais si on s'entretient. Nerveuse énorme.
Mais voilà, vraiment tu te sens complètement vidé. Et justement, bah c'est ça où il faut apprendre à gérer, parce que si après tu charges là-dessus, si tu derrière tu fais du travail de force ou des trucs comme ça, enfin tu peux vite te cuire complètement et c'est pas le but. Donc apprendre un petit peu à gérer cette progression. Et donc ensuite, bah c'est simple, hein, on va faire dans une première partie des gammes, hein, moi j'appelle ça des gammes. On peut faire pas mal de similitudes avec la musique, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler des enchaînements techniques, hein, des petits bouts de programme, vraiment de la technicité pour aller affûter les gestes, affûter certains mouvements qui peuvent être un peu plus délicats. Et puis petit à petit, eh bien on va travailler du programme, c'est-à-dire que voilà, l'image que j'ai, c'est comme le ponçage, hein. Au départ, on part avec un morceau de bois brut, on commence par le gros grain, et puis après, on finit par le grain fin pour vraiment essayer d'avoir un truc nickel. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'au départ, on commence sur les gammes, on débourre, et puis après, petit à petit, eh bien, en fait, on va aller dans du spécifique, quoi, hein, c'est-à-dire vraiment du travail de programme proche de ce qu'on va aller faire en compète avec des enchaînements de plusieurs figures. Et là, le but, ça va être de voir, bah, si effectivement, des fois, les choses qu'on a travaillées en individuel, une fois qu'on les replace dans un programme complet, bah, si les automatismes sont là ou pas. Et si effectivement, les automatismes, on se rend compte que, bah, la figure qu'on maîtrisait bien en individuel, bah, une fois qu'on la replace dans un programme où il faut gérer un ensemble, bah, hop, la petite erreur, elle revient, et bah, hop, on ressort la figure, on va la retravailler un petit peu, on repasse un petit coup de ponçage, et puis ainsi de suite, et jusqu'à ce que, bah, ça soit le plus parfait possible, quoi.
D'accord. Ok. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et bah vous avez en fait une organisation très très similaire à beaucoup peut-être de beaucoup d'autres sportifs ou beaucoup d'autres équipes. Enfin, je me rends compte à quel point c'est exigeant parce qu'il y a effectivement toute la partie physique et c'est aussi un peu tout la magie des sports à jugement, d'être dans la perfection en permanence et d'être en permanence à la recherche du geste parfait, de la figure parfaite. Donc c'est assez fascinant. Et je me demandais aussi par rapport à la compétition, je serais curieux de savoir aussi comment est-ce que logistiquement ça se passe, combien tu peux avoir de participants, combien va durer du coup, est-ce que tu vois il y a des règles, est-ce que tu pourrais nous mettre un petit peu dans les coulisses d'une compétition. J'imagine que tu vois, bon, le spectateur moyen, il est comme moi, il voit les avions voler, il trouve ça d'une précision rare et on imagine à quel point ça doit être intense à l'intérieur du cockpit. Mais qu'est-ce qui se passe autour de tout ça en fait, et comment vous êtes jugé, comment la compétition se passe de manière un petit peu opérationnelle et logistique?
Ouais, bah opérationnelle et logistique, hein, on amène nos machines forcément sur place, donc soit en vol, soit en les démontant. Il y a eu bon, généralement la plupart des compétitions se passent en Europe, parce que le gros des voltigeurs est européen. Après, effectivement, on a des voltigeurs aux États-Unis, en Australie, des choses comme ça. Donc, voilà. Mais bon, je pense que 70-80% du circuit des voltigeurs, c'est en Europe. Donc, souvent, les compètes sont plutôt là. Ensuite, souvent, c'est des avions en partagé, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas un avion par pilote. Hein, on peut être à plusieurs à voler sur une même machine, parce que comme c'est une discipline individuelle, ça pose pas de soucis. Donc, voilà. Généralement, on peut être à 2 à 3 pilotes par avion.
D'accord.
Voilà. Ensuite,
Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des réglages, mais il n'y a pas de réglage qui vous empêche de vous passer entre guillemets. Tu vois, c'est pas. Alors, comme...
Si effectivement on peut avoir des petits réglages sur les machines. Donc après, nous, on actuellement à l'EVA, on a deux avions, deux monoplaces. Donc ils vont avoir. En fait, on fait en sorte d'avoir qu'ils aient des réglages assez similaires, parce que nous aussi, en fait, c'est pouvoir passer d'un avion à l'autre en cas de panne. Maintenant. On a des préférences, c'est-à-dire que on va pouvoir jouer sur la sensibilité, notamment c'est surtout sur les ailerons. En fait, c'est sur la lourdeur. En fait, il y en a qui préfèrent avoir des ailerons un peu plus lourds, donc voilà, il y en a qui préfèrent avoir des ailerons un peu plus légers. Donc ça, on va pouvoir jouer là-dessus. Donc après, bah nous, on essaie d'avoir un consensus là-dessus et après, bon, on s'y habitue. Hein. Donc, nous, ouais. on essaie plutôt de mettre des réglages assez standards et puis après, voilà, on met la petite touche Monsieur Plus dessus et comme ça, on a l'impression d'avoir un truc un peu plus personnalisé parce que c'est important. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je vole beaucoup aux sensations et j'ai vraiment besoin d'avoir, par contre, un avion qui me parle, quoi. C'est-à-dire que si les sensations sont pas bonnes dessus, ça va être, je m'en sortirai, hein, y a pas de souci, mais je prendrai moins de plaisir, en tout cas. Voilà.
Et, moi, j'ai besoin. Ouais. Et tu saurais mettre un petit peu des mots, ou expliquer un petit peu comment est-ce que quel style d'avion tu vas préférer. Là, ça me fait penser que je regardais récemment des reportages sur les pilotes de F1. Mmh. Et tu sais, ils ont exactement la même chose, tu vois. Et ce que j'avais trouvé assez fascinant, c'était qu'ils étaient capables de dire quand j'appuie sur l'accélérateur à tel moment en virage, je sens que ça réagit pas. Et toi, tu saurais dire un petit peu sur un avion comment est-ce que tu l'aimes entre guillemets et comment est-ce que tu vas repérer des sensations que tu vas moins apprécier.
Bah, j'aime bien avoir un manche des commandes assez légères en fait. Voilà, après c'est pas il faut que ça soit vif parce que j'ai un pilotage qui est assez explosif, assez dynamique. Donc j'aime bien quand l'avion tourne vite et que voilà, c'est assez il y a pas d'entrave quoi, il y a pas de rigidité dans la machine. Voilà.
OK.
Voilà. Après pour du coup revenir à la compétition, une compète ça va se durer sur entre une semaine et 10 jours à peu près. Sur un championnat du monde, on va retrouver entre 50 et 60 pilotes en moyenne. une bonne cinquantaine. Donc là ensuite ça va se dérouler il y a entre 3 et 4 programmes à passer. Mmh. Donc en fait c'est un peu comme au patinage artistique, on va avoir un programme connu qui lui est connu suffisamment longtemps à l'avance sur lequel on va pouvoir s'entraîner. D'accord. Et ensuite on va avoir ce qu'on appelle les programmes inconnus. Donc là c'est le gros morceau. Inconnu, c'est qu'en fait on va prendre le cas d'un championnat du monde. En fait, les nations, donc chaque nation va pouvoir tirer une figure et poser une figure de son choix. Donc en gros, il y a 10 figures qui doivent être posées. Donc ça, après, il y a des règles, voilà, en fonction de qui pose en premier la figure, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est forcément de poser quelque chose que nous on aura peut-être travaillé, que les autres auront moins travaillé. Mais en même temps, il faut pas se tirer une balle dans le pied parce que si tu poses un truc que tu n'arrives pas à faire, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Et avec toutes ces figures, on va créer un programme. Et là, en fait, ce programme-là, on ne pourra pas s'entraîner, en tout cas physiquement dessus. C'est-à-dire que la seule fois que tu vas le voler, ça va être devant les juges. Donc il va y avoir un gros travail de mentalisation, de préparation au sol, de visualisation. Voilà. Après, comme j'ai inconnu, c'est que les figures. C'est souvent des combinaisons d'enchaînement, donc t'es censé un petit peu avoir tout travaillé. C'est comme je dis, c'est comme si finalement on te mettait juste une partition, tu te dis toi tu connais le solfège, tu connais tes mesures, tu connais tout le truc, mais par contre on te dit la partition c'est ça, et en fait tu vas juste pas pouvoir avoir de piano jusqu'au lendemain pour t'entraîner dessus. Éventuellement t'auras ton piano dans ta tête ou un bout de bois sur lequel tu vas peut-être jouer tes gammes, mais la seule fois que tu seras devant le piano, ça sera pour exécuter le morceau. Nous c'est pareil avec ces programmes là et donc il y en a entre en gros au total ça fait entre 3 et 4 programmes en fonction des aléas météo et ainsi de suite. Donc en fait une compétition, un vol c'est 6 minutes à peu près, enfin le programme entre le début et la fin c'est 6 minutes, ça fait 10 minutes décoller poser, donc c'est très court. Et donc pendant ce temps là tu passes ton temps à attendre, et il y a beaucoup d'attentes parce que forcément il faut que tout le monde passe les uns après les autres.
Il y a combien de participants peut-être?
Entre 50 et 60. Donc en moyenne on passe
6 minutes, ça fait long.
Ouais, ça passe entre 5 pilotes à l'heure à peu près, 5-6 pilotes à l'heure. Donc c'est vraiment le gros truc à gérer en compète de voltige, c'est la gestion justement de l'attente. Parce que en fait c'est de savoir à peu près quand est-ce que tu vas voler, donc généralement tu as un planning théorique, et puis c'est de suivre un peu la cadence des vols pour se dire à mon avis j'ai plutôt passé cet après-midi, j'ai plutôt passé à telle heure, et en même temps d'être à la fois assez détaché, parce que faut pas se mettre dans le jus 5 heures avant, quoi, parce que sinon en fait tu vas faire un vol comme ça, puis après tu vas juste être cramé pour tout le reste de la compète. Donc voilà.
C'est marrant pour des, excuse-moi, c'est la petite blague ou la petite vanne, mais c'est marrant pour des aviateurs de pas fixer des heures de départ précises pour tout le monde et de pas savoir à quelle heure vous allez passer.
C'est ce qu'on dit, l'aviation c'est un moyen de transport rapide pour gens pas pressés. Non, mais c'est parce que voilà, après t'as des aléas, tu vois, météo. Des fois, ça prend un peu de retard, ou parce que les juges vont avoir une discussion sur un vol, une figure. Donc voilà, et des fois il faut aussi qu'ils fassent des pauses, parce que voilà, ça enchaîne. Les vols s'enchaînent tout le long de la journée. Et donc voilà. Donc après, bah nous, on va passer comme ça en fonction des tirages au sort, chacun sur nos programmes. Tous les vols, donc effectivement, on vole dans un volume qui est ce qu'on appelle un box, hein, c'est un cube d'un kilomètre de côté. Donc okay. c'est grand, mais c'est aussi petit, parce qu'avec des machines qui volent jusqu'à 400 km/h, un kilomètre, on le fait en 6 secondes. Donc en fait, et comme il faut quasiment pas en sortir, et ben il faut en gros faire en sorte que ce programme reste dans le volume, donc d'où la nécessité des fois de tirer fort sur le manche pour pouvoir avoir des trajectoires hyper serrées. Ouais. Et donc ensuite, eh ben, on va avoir des juges qui vont être au bord de ce box à 150 mètres à peu près, et puis bah eux ils vont avoir le programme sous les yeux, et chaque figure, eh ben, ils vont regarder, ils vont juger. Comme j'expliquais, hein, en partant de 10 et en retranchant des points, des demi-points par rapport aux erreurs qui sont perçues, par rapport à ce qui serait la figure idéale et attendue. Donc là-dessus, il y a à la fois un critère de technicité, c'est-à-dire que voilà, on va imaginer l'avion, je sais pas, il doit se mettre à la verticale, faire un tonneau complet. Bon, bah ils vont regarder si l'avion est bien vertical, si le tonneau il tourne bien sur 360 degrés, si ça s'arrête un peu court ou dépassé, ainsi de suite.
Et attends, puis, je sais pas si on l'a précisé, mais ils jugent du sol ou il y a des caméras?
Du sol, c'est à l'œil.
D'accord.
C'est à l'œil en fait.
Mais faut ça c'est bien se positionner par rapport à eux, c'est-à-dire.
Ouais, c'est ça.
Faut être capable de te positionner pour qu'ils voient bien.
Exactement.
Parfaitement les figures. Ok.
Exactement. Il y a aussi c'est le deuxième critère, c'est le placement des figures, c'est-à-dire que au-delà de la technicité, il faut faire en sorte que ton programme, comme je disais, tienne dans le volume. Alors des fois, il y avait même des compétitions, il y avait des juges de boxe, c'est-à-dire que si tu sortais du volume, tu te prenais des pénalités. Et sinon, en fait, le but c'est que le programme soit bien centré, c'est-à-dire qu'il faut qu'une figure elle soit pas faite trop loin, trop près, trop à gauche, trop à droite. Donc chaque programme a une logique, on va dire, de présentation. Et là-dessus, pareil, t'as une note de cadre, c'est-à-dire que si tu commences à faire toutes tes figures super loin ou que c'est pas, enfin voilà, qui tout à gauche ou tout à droite, tu vas être pareil, tu vas être plus ou moins bien noté sur ton cadre. Donc en fait, il y a à la fois l'aspect finalement, ça c'est plus le côté presque, je vais dire, artistique, c'est-à-dire c'est toi à l'avance te dire, ok, moi mon programme, faut que je le représente comme ça, quoi, à telle altitude, telle figure. Donc il y a tous ces paramètres à prendre en compte, c'est-à-dire à la fois la technicité, mais en même temps de penser à dire, voilà, faut pas que je sois trop haut, faut pas que je sois trop bas, faut pas que je sois trop loin, faut pas que je sois trop près, et voilà. Donc ça fait pas mal de petits paramètres
effectivement
à prendre en compte.
OK. Bon, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et vous parlez aux juges, vous avez le droit d'échanger avec eux, alors pas pendant la compétition, mais je veux dire en dehors. Est-ce que je te pose la question parce que hier j'étais vraiment surpris avec Antoine Adlis, on discutait et il me disait effectivement que dans le ski freestyle et dans le ski freestyle, en fait, c'était une communauté qui était extrêmement proche. Ouais. Et en fait, avant chaque compétition et même après chaque compétition, en fait, les juges étaient très transparents sur ce qu'ils allaient chercher. Ils expliquaient comment est-ce qu'ils allaient noter. Les athlètes pouvaient poser des questions, par exemple, si je prends la bosse de telle façon, de tel angle, est-ce que ça sera pénalisé, par exemple. Vous, ça a l'air plus normé, en tout cas, vu que vous avez, comme vous avez un peu atteint les lois de la physique, je pense que toutes les figures ont déjà été faites, entre guillemets. Et d'ailleurs, quid, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, tu me corrigeras, mais est-ce que du coup vous allez échanger avec les juges, est-ce que vous allez avoir une relation proche et transparente avec eux pour justement adapter un petit peu votre pratique et votre style?
Oui, en fait, complètement, dans le sens où pas pareil, ça reste une petite communauté, hein, la voltige, c'est pas un sport de masse. Après, donc on va quand même essayer d'aller glaner des infos, parce que souvent la plupart des juges peuvent, enfin voilà, un juge, des juges internationaux vont représenter différents pays. Le but, hein, c'est que ça soit assez assez fair pour tout le monde. Et ensuite, bah, par exemple, quand on a des juges français, à l'issue d'une compétition, souvent, on va pouvoir discuter avec eux, dire voilà, ils vont clairement changer. Après, pendant la compétition, voilà, on essaie de garder un, c'est normal, c'est une sorte de, y a rien qui est écrit, mais le but, c'est que on essaie voilà de cloisonner un petit peu, parce que c'est vis-à-vis, enfin voilà, c'est une sorte d'équité, et donc il y a pas vraiment, on évite les contacts avec les juges. Mais après, une fois que la compète est terminée ou avant, bien sûr, on essaie d'avoir leur retour. Après, les critères de jugement, ils sont notés, hein, nous, dans le code sportif de la voltige. Donc, en fait, on sait à quoi s'attendre. Néanmoins, entre bah, ce qui est écrit sur les lignes et puis et après ce qui est perçu, ça peut être intéressant d'avoir un retour, parce que de temps en temps, il peut y avoir, voilà, on peut avoir une façon de faire qui fait que nous, on a l'impression que c'est bien. Et puis finalement, la manière dont c'est perçu du sol, c'est pas forcément la bonne chose. Ouais. Donc voilà. Après, on a nous tous les programmes sont effectivement, c'est ce qu'on appelle la voltige compétition, ça s'appelle l'Aresti. Donc là, c'est vraiment très codifié. Et en fait, à la fin des compétitions, on a une épreuve de freestyle qui là, en fait, se rapproche un petit peu plus effectivement de ce que tu disais en sur les disciplines justement artistiques, où là, en fait, c'est pendant 4 minutes où là, on peut vraiment utiliser l'avion comme on veut, avec de la musique, du fumigène. Et là, c'est ce qu'on appelle du libre intégral, c'est-à-dire qu'il y a plus de figure codifiée. Ouais. Là, c'est sur 4 minutes, et là, on peut vraiment présenter ce qu'on veut, des figures qui sont complètement atypiques. Enfin voilà, où l'avion peut s'arrêter, repartir. Et là, par contre, les critères de notation vont être beaucoup plus larges. Même si effectivement, on sait ce qui est plus ou moins attendu. Voilà, il faut qu'il y ait du vol lent, du vol rapide, une certaine harmonie. Voilà. Mais oui, effectivement, on essaye à chaque fois de glaner les petites infos quand on peut.
D'accord, ok, ouais. Et ouais, tout a déjà été créé, tu vois, sur cette dimension, enfin sur justement sur discipline artistique. Est-ce que vous arrivez à ça va peut-être paraître, enfin c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce que vous arrivez encore à repousser les lois de la nature?
Ouais,
ouais, vas-y.
On essaye en tout cas. Après, après il y a un gros facteur aussi, hein, c'est la machine qui va rentrer en compte.
Bien sûr.
En fait, l'avantage, c'est que sur la partie compétition, nous, on est en ce qu'on appelle en catégorie unlimited, c'est-à-dire que c'est comme son nom l'indique, c'est sans limite. C'est-à-dire que si tu as envie de venir avec un avion avec un moteur de 800 chevaux, bah tu peux. Après, voilà, sauf que si le truc il va à 800 km/h, bah tu resteras pas dans le box. Mais voilà, c'est libre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la partie voltige classique, à partir du moment où tu as une machine qui comme la nôtre, il y a des machines beaucoup plus puissantes que les nôtres qui existent, un petit peu plus, ça donne un petit avantage, mais finalement il y a pas mal de choses qui sont gommées par le pilote, c'est-à-dire que là c'est vraiment de la technicité. Donc même si le mec il a un truc avec 30 chevaux de plus à côté, bon bah ça l'aidera un petit peu quand il va faire chaud, des choses comme ça, mais si techniquement il est pas à la hauteur, ça va pas faire en sorte qu'il vole mieux. Donc là-dessus, il y a une certaine équité en tout cas, c'est là pour le coup, c'est plus l'homme qui fait le programme que la machine. Après, pour le freestyle, clairement, là c'est quand même avantageux, plus t'as de la puissance, plus tu peux avoir des débattements sur des gouvernes importantes, plus tu vas pouvoir aller forcément chercher des choses. Alors après, bah c'est là où on pas rentrer dans le détail, mais on a des avions qui sont certifiés, c'est-à-dire qu'en gros, bah nous on a un certificat qui dit que l'avion il a été construit comme ça et qu'en gros il faut qu'il le reste. Donc en gros, t'as pas trop le droit de changer des choses, t'as pas le droit de mettre un moteur plus puissant et ainsi de suite. D'accord. Et après t'as des avions ce qu'ils appellent expérimentaux, ça peut être les mêmes avions, sauf qu'en fait il y a plus de certificat. En gros, le constructeur dit bah voilà, nous l'avion on vous le livre, ça vole pas sous les mêmes normes. Et là, si tu as envie de mettre le même moteur, mais préparé avec 30 chevaux de plus, bah tu peux. Par contre, si le moteur il casse derrière, c'est un peu ton problème, quoi. Ouais. Voilà. Et donc là-dessus, bah effectivement.
Tu veux bien de le rappeler parce qu'on peut se dire, bah allez, on va faire du tuning sur les avions et on va les modifier nous-mêmes.
Non, en fait, ouais, voilà, c'est hyper cadré, en fait. Hein, non, mais c'est normal. Si ça tombe sur quelqu'un, c'est pas le but, quoi. Donc tout est bien, quand même, bien cadré. Néanmoins, bah effectivement, là en freestyle, et on voit beaucoup aux États-Unis où ils ont pas mal de machines un peu expérimentales, où là forcément ça ouvre un peu plus le champ des possibles. Après le paradoxe, hein, moi je vais dire, c'est qu'avec nos machines, souvent t'arrives à aller chercher des trucs un peu, donc t'essayes de trouver, d'expérimenter un peu des nouvelles figures. Après, souvent le problème, c'est que c'est des choses que tu pourras mettre en meeting, parce que soit un programme meeting, ça dure 8 minutes. Donc, une figure qui est un peu nouvelle, un peu des fois, nous, ce qu'on appelle énergivore, c'est-à-dire qui va être spectaculaire, mais qui va consommer beaucoup d'énergie en altitude, des choses comme ça. Bah, derrière, tu vas pouvoir te replacer pour ensuite renchaîner sur ton programme. Le problème en freestyle sur la compète en 4 minutes, 4 minutes, c'est très court. Donc, il faut arriver à avoir quelque chose d'hyper rythmé, harmonieux. Et le problème, c'est que des fois, tu peux sortir la figure, hyper impressionnante, mais si en fait ça dégrade toute ton énergie et que derrière t'es obligé de l'avion il a plus rien, ou t'es obligé de te replacer avec une figure qui a aucun intérêt, en fait super, hein, ça va faire une super figure et en fait tu vas avoir juste cassé tout le rythme et tu vas te faire tu vas te faire moins bien noter. Et c'est là justement où des fois des gens qui vont avoir des machines un peu plus puissantes ça va être un peu plus avantageux, parce que en fait, ils vont pouvoir faire cette figure-là, mais ensuite derrière, l'avion va encore avoir de l'énergie pour pouvoir restituer d'autres figures impressionnantes. Donc en fait, c'est un peu fromage ou dessert, quoi. C'est-à-dire que tu choisis entre le truc qu'on voit, un peu, puis après dire ok, là il faut que j'arrive à aller reprendre un peu d'énergie, mais sans que ça glande trop. Donc voilà, tu te montes un truc. Mais après, ouais, il y a quand même une phase créative qui est quand même hyper sympa. Hein. Quand tu travailles justement ces choses-là, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des machines, c'est tout en prise directe. T'as vraiment des sensations de vol, quoi. Hein. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai jamais fait de wingsuit, mais je pense que les mecs qui font ça, ils ont vraiment des sensations de vol assez extraordinaires. Et en fait, pour avoir emmené aussi en baptême des fois des gens qui en font, je pense qu'ils ont vraiment kiffé aussi le côté voltige. Et c'est ça, hein, c'est que des fois t'as vraiment l'impression que ton corps, en fait, c'est, enfin voilà, que l'avion c'est le prolongement de ton corps, et tu ressens beaucoup de choses quand l'avion va manœuvrer dans des vraiment très basses vitesses. T'as vraiment l'impression de sentir un peu les filets d'air sur les ailes, et c'est hyper grisant, quoi.
Ouais, je vois très bien de quoi tu parles, parce que j'ai fait ma première initiation de vol l'été dernier.
Super.
Et mon père, c'est bon, il a passé le cap, il est en train de se renseigner pour savoir dans quelle école de vol il va aller, et là il est à quelques mois de la retraite, donc c'est en train de se concrétiser. Et du coup, on a fait ça ensemble, et j'étais hyper étonné, en fait, même sur un avion qui te permet de faire un bateau thème ou une initiation, ou même de passer ce brevet de pilotage, tu touches à quelque chose, ça bouge, quoi, et mécaniquement ça bouge sur l'avion, et donc du coup tu fais même à bas niveau, alors j'imagine encore plus pour toi, tu fais corps avec l'avion, quoi. C'est assez impressionnant, je trouve, d'ailleurs, pour un civil comme moi, la première fois, t'as tendance à te dire que tout va être très mécanisé, qu'il va y avoir des effets de levier partout, qu'il va y avoir aussi de l'électronique, et en fait tu rentres dedans et non, il y a quoi, je sais pas, il y a une dizaine de fils électriques, et puis sinon tout le reste c'est mécanique. Donc
ouais. C'est ce qui marche le mieux, c'est basique, c'est rustique, et au moins ça tombe pas en panne, quoi.
Ouais, exactement. Et ben, je me demandais d'ailleurs, par rapport à toi, ouais, vous, c'est parce que c'est des avions extrêmement légers. Il y a beaucoup d'électronique dedans embarquée. Comment les matériaux aussi, quels sont les matériaux? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un avion aussi léger? On enlève tout ce qui sert à rien, j'imagine. Mais du coup, qu'est-ce qui reste à la fin? À
part le pilote et le moteur. Et après le reste, non, mais ouais, c'est ça. C'est, on utilise ces avions qui sont construits, qui utilisent pas mal de carbone. En fait, c'est un matériau. c'est des matériaux qui sont assez intéressants parce que à la fois très solides et très légers. Donc les ailes notamment nous sont faites en carbone, tout ce qui est partie mobile et tout ça. Après le fuselage c'est un treillis tubulaire, donc ça ressemble un petit peu à ce qui se fait sur les voitures de course sur lequel ils viennent mettre une coque en carbone justement. Et après effectivement l'intérieur c'est beaucoup de l'instrumentation analogique, hein, c'est-à-dire on a vitesse, alti, paramètres moteurs parce que bah faut voir que tout fonctionne bien, mais voilà, hein, c'est, il y a pas d'instrument de navigation, il y a vraiment, c'est vraiment dépouillé, en gros c'est tout ce qui sert à rien on l'enlève parce que c'est du poids et oui. Voilà, hein, même le siège et tout c'est pas la première classe quoi, hein, c'est vraiment un truc hyper c'est hyper rigide et puis et voilà, le tout c'est d'avoir un bon harnais qui te maintient l'ensemble sur le baquet là. Et voilà, et c'est ça qui est génial parce que c'est vraiment du karting quoi, enfin façon de parler, mais c'est dépouillé. Ouais. Et
ça parlera à tout le monde.
Ouais, non mais c'est ça, hein, c'est, et tout est en prise directe, les commandes, il y a pas un, quand j'agis sur le manche, c'est pas, il y a pas un piston qui va pousser le truc, c'est un renvoi et ça va directement sur l'aileron, mais on est obligé d'avoir ça parce que sinon, si on, comme je disais, il y a quand même beaucoup de trucs qui se font, t'es obligé de ressentir. C'est de la glisse, hein, clairement. Les gens se rendent pas compte, mais quand tu voles en, comme ça, en voltige, on s'appuie sur de l'air. L'air, mm-hmm. c'est un fluide, c'est comme de la neige, comme de l'eau, c'est quelque chose, qui, sur lequel, en fait, l'avion va se déplacer, va glisser dessus. Et clairement, le but, c'est de ressentir. Moi, je fais toujours la comparaison entre la neige d'hiver, bien tassée, bien damée, et la neige de printemps. Bah, nous, c'est pareil, quand il fait frais, que l'air est dense, et ben forcément l'avion va mieux marcher, c'est-à-dire que ça va mieux réagir, les ailerons vont accrocher, les lisses, ainsi de suite. Donc là c'est le comparatif, c'est la piste de ski qui a été bien préparée, sur lequel les cars vont accrocher, et puis quand il fait 35 degrés l'été, qu'on est en altitude, et ben c'est la neige de printemps quoi, c'est-à-dire que les performances, l'air est moins porteur et moins dense, donc l'avion est beaucoup plus mou aux commandes et du coup ça accroche moins, et donc il faut arriver à composer avec ça, et ça on arrive à le ressentir, c'est-à-dire que sur les premières figures je sens, voilà, si je suis aujourd'hui sur la noire qui est damée, glacée et qui est carafutée, ou si je suis sur la piste verte de printemps avec la neige qui est à moitié en train de fondre quoi.
OK. Bah en tout cas merci pour la métaphore parce que du coup c'est hyper clair et j'imagine bien la chose, donc c'est super. Bon on est super bavard et oui. le temps tourne bien. Il y avait une question que je voulais absolument te poser parce que j'étais pas du tout au courant de ça et pourtant je suis un petit peu curieux de ce qui se fait. J'ai cru comprendre qu'il y avait un langage particulier pour la voltige qui s'appelle l'Aresti. Dis-moi si je me trompe.
Ouais.
Alors, est-ce que c'est un langage écrit, oral, c'est pour communiquer entre qui et qui? Est-ce que c'est pour quand vous faites de la voltige synchronisée? Dis-moi tout. Je me suis volontairement pas informé dessus. Je me suis dit, ah tiens, c'est quand même assez particulier. Je vais le découvrir. Je vais le découvrir en direct. Mais ça sera peut-être sympa.
Ouais, mais en fait c'est ça. L'Aresti, c'est le nom en fait de la personne qui a inventé cette codification. C'était un Espagnol qui justement était voltigeur et qui s'est dit bah tiens, dans les compétitions ça serait bien qu'on ait tous la même façon de parler. Et donc il a créé effectivement ce qu'on appelle l'aérocryptographie. En fait, c'est la manière de représenter des figures par des symboles. Ouais. Et donc voilà, en fait plutôt que dire ah bah tiens, je vais décrire ça, enfin je sais pas, telle figure, bah, le tout c'est de la représenter. Donc souvent ça représente une trajectoire, la trajectoire qui va devoir être effectuée, et puis sur lequel en fait on va habiller les rotations. Et donc ça, l'avantage c'est que c'est compris par tout le monde et y a pas de doute quoi. C'est-à-dire que quand on voit ça, on sait exactement ce qu'il y a à faire. Voilà.
Ok, d'accord. Et du coup donc c'est un langage du coup visuel qui sert à être écrit, et vous apprenez tous du coup à le dessiner et pour pouvoir justement entre vous exprimer les figures quoi.
Tout à fait.
Est-ce que t'es amené souvent à le dessiner toi-même, tu sais, à prendre un bout de papier et à le tracer?
Si tu le fais. Ouais tu le fais en fait. Soit tu recopies ton programme, quand tu veux travailler un programme, tu dessines ton programme en fait, hein. Après t'as des petites applications qui te permettent de faire ça de manière super propre. Mais oui, en fait, à la base, c'est un catalogue, c'est-à-dire que toutes les figures sont codifiées, référencées. Enfin, en gros, c'est des combinaisons, hein. C'est des combinaisons de trajectoires et de rotations, ouais. Ce qui font que, en fait, tu fais des assemblages et ça te donne une figure. Et en fait, après, comme ça aussi, t'as les coefficients associés, c'est-à-dire que pour les notes, telle figure va avoir un coefficient plus élevé qu'une autre parce que ça tient compte de la difficulté. Et ce qui fait que bah, pour le jugement, à la fin, eux, les juges mettent la note. Et puis, pour avoir le résultat, bah, on multiplie les notes par le coefficient total de la figure et ça donne un nombre de points.
D'accord.
Ouais. Voilà.
C'est
comme si, en fait, je sais pas, dans d'autres disciplines artistiques, on disait, le 360, c'est, je sais pas, tel schéma, un truc qui fait un tour, ça doit retomber à tel angle, ça doit partir avec tel angle et ainsi de suite, quoi.
Ouais, non, mais écoute, ouais, c'est intéressant. En tout cas, on reconnaît quand même l'approche un peu ingénieur et scientifique de vouloir communiquer de manière très précise, parce que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'aviation et dans l'armée, quoi. C'est d'être, on est précis et il faut qu'on se comprenne et qu'on soit sûr que le message passe, que l'information passe de manière très fluide. Donc, je reconnais bien ça. Et il y a même dans l'aviation en général, il y a des langages ou des codes qui ont été créés un petit peu, si tu veux, en annexe. Il y a peut-être sûrement des nomenclatures. Je pense que beaucoup de choses sont normées, mais il y a d'autres choses. Enfin, il y a d'autres langages un peu similaires dans l'aviation, mais à d'autres utilités.
Il y a le langage aéro, en fait. Hein, ça, c'est AT, il en avait parlé. En fait, on utilise l'anglais beaucoup. Et après, des fois, ça peut être de l'anglais courant, mais après, il y a vraiment ce qu'on appelle des mots codes. Hein, c'est-à-dire que quand on entend dans les films, les pilotes là, Roger, machin, tout ça. Bon, c'est caricaturé, mais c'est que ça a une signification. Et souvent, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, c'est que ça soit compris par tout le monde, que ça soit bref. Nous là, on parle beaucoup, mais parce qu'on a le temps. mais c'est vrai que quand on est en vol, il faut que l'info elle passe le plus rapidement possible en utilisant le moins possible la radio, ou faut que ça soit vite et que ça soit bien compris. Et donc pour ça, généralement, on va utiliser des mots codes, que ça soit dans l'aviation civile ou en aviation militaire d'ailleurs.
D'accord. Ok. Et ouais, et c'est du coup, il y a le langage, mais il y a pas spécialement d'autres applications ou de.
C'est tout ce qui est les schémas, mais ça c'est on retrouve ça dans les côtés. Après, s'il y avait peut-être, je crois, les voyants de panne, il y a une histoire comme ça. En fait, souvent au niveau des couleurs, de la symbologie. En fait, par exemple, sur un avion, tu vas avoir trois types de couleurs, vert. Enfin, c'est des couleurs qui sont normées. Hein, c'est-à-dire que une panne, c'est ambre, donc orange ou rouge. Et en fait, en fonction, ça a pas la même. En fait, une panne ambre, globalement, c'est que ça peut continuer à voler. Il faut s'en occuper, mais il n'y a pas un danger immédiat. Alors que rouge, en gros, c'est que ça commence à craindre vraiment et que là, il y a une action urgente à faire, quoi.
D'accord. Voilà.
Et ça, c'est ça, peu importe le type d'avion. Généralement, toi, tu vas faire des petits avions légers. Tu verras, t'auras sûrement ces voyants de panne ambre et rouge, et tu verras que quand généralement un rouge s'allume, c'est que faut vite aller se poser, quoi.
Ok, ça roule. Écoute, c'était vraiment hyper passionnant. Je me régale. Comme le temps passe, je voulais passer un petit peu aux petites questions de la fin.
Ouais.
C'est des questions que j'aime bien poser à tous les invités. La première, c'était de savoir s'il y avait un livre ou un film que tu recommandais très souvent parce qu'il t'a marqué et que t'en as tiré quelque chose de très fort.
Je suis assez épicurien et assez curieux et éclectique dans mes lectures et mes films. Après, quand j'étais jeune, j'aimais bien l'étoffe des héros parce que c'était un peu la rencontre ce film là qui explique un peu la conquête spatiale avec côté les pilotes d'essai. Enfin voilà, c'était ça reste un peu le film culte en tout cas pour moi. Après les bouquins, maintenant il y a beaucoup de bons livres. Là j'ai lu récemment sur les conseils de mon préparateur mental, c'est Les secrets des performances, c'est Fanny Nussbaum je crois qui a écrit, et c'est vraiment génial. Enfin c'est un livre qui est sorti il y a pas longtemps et c'est vraiment très intéressant à lire. Donc voilà.
Alors, Le secret des performances de Fanny Nussbaum. D'accord, OK. Ouais. Eh ben écoute, je le note parce que on me l'a jamais cité. Donc et comme j'adore tout ce qui est préparation mentale, je vais aller me commander ça assez rapidement, je pense.
Ouais.
Mais bah écoute, ouais, bah un des livres d'ailleurs si ça t'intéresse sur le alors c'est plus sur la quête personnelle, mais un des livres qui était revenu assez souvent c'était Le guerrier du Pacifique. Voilà, c'est
d'accord.
Tu regarderas, mais c'est sur effectivement la quête personnelle et effectivement l'autoconviction, et c'est un livre qui est revenu je pense le plus souvent, donc
j'adore. Bah...
c'est le livre que je recommande moi à tous parce que je l'ai lu et je l'ai adoré, mais
j'irai le commander après.
Ça marche. Voilà. Et si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même, tu vois, qui va le matin où tu vas passer tes premiers tests pour rentrer dans l'armée, qu'est-ce que tu te dirais, qu'est-ce que tu te conseillerais à ce moment-là?
Comme j'ai pas de regrets, donc en fait, si je devais refaire un copier-coller,
je vais poser la question différemment, ouais. Mais si tu pouvais si tu pouvais donner un conseil à un jeune qui te fait penser beaucoup à toi à cet âge-là, qu'est-ce que tu lui dirais pour le conseiller et le guider, tu vois?
Sois passionné, la motivation c'est vraiment la clé de tout, sois curieux et surtout crois en tes rêves, quoi. C'est-à-dire, te laisse pas dicter quelque chose parce qu'on va dire, ouais, c'est dur, tu comprends, tu n'y arriveras pas. Non, en fait, c'est toi qui vas décider, en tout cas, de comment les choses vont se faire. Et si tu t'en donnes les moyens, en tout cas, tu mettras toutes les chances de ton côté pour y arriver. Donc, te laisse pas dicter par les autres ce que tu as envie de faire ou ce que tu dois faire.
Ok, super. Et une question que j'aime beaucoup poser, et après ça sera la dernière de notre échange, mais c'est comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je serais très curieux, tu vois, parce que des sports peut-être un peu plus médiatiques ou en tout cas plus qu'on va avoir plus tendance à voir la télé, les réponses sont diverses et variées, et donc j'imagine pour toi ça doit être encore plus ça va être encore le champ des possibles est encore plus loin, je pense.
En fait, moi, la voltige, c'est vraiment une passion, donc c'est un truc que j'aimerais, en tout cas, j'espère faire le plus longtemps possible. Après, moi, je suis aussi lié par mes contrats avec l'armée, donc il y a un moment où il faudra que je passe à autre chose. Donc, je sais pas si je continuerai. Enfin, je pense que si je garderai un pied dedans, je sais pas si ce sera en compétition ou pas. Une fois que j'aurai quitté, que je serai retourné à la vie civile. Après, moi, mon rêve, parce que tu vois, depuis le début, je vis mes rêves en fait. Enfin, en tout cas, j'essaie de faire en sorte de pouvoir les vivre. Le troisième rêve maintenant, ça serait de faire pilote bombardier d'eau. Dans le sud de la France, on a la sécurité civile qui vole sur les, enfin, qui font de la lutte. Lutte incendie sur les feux de forêt et voilà, moi pour moi le rêve ça serait de pouvoir intégrer ce beau métier que sont les pompiers du ciel.
D'accord. Eh ben écoute, c'est un magnifique projet, et en tout cas je pense, et en plus c'est une cause noble, je trouve, et écoute, même si je souhaite pas qu'il y ait d'incendie plus que ça, écoute, je te souhaite vraiment d'y arriver et de réaliser ce énième rêve au-dessus du ciel, donc ça me semble être un beau projet, je suivrai ça de près. Merci beaucoup Alexandre, c'est la toute dernière question que je pose, c'est j'aime bien la métaphore du passage de flambeau olympique.
Ouais.
De dire que ce n'est pas un passage de flambeau mais là un passage de micro. Ouais. C'est de savoir quelle est la prochaine personne, le prochain athlète que tu verrais bien sur un échange tel que celui-ci.
Eh ben, il a été parrain de l'équipe de Voltige. Enfin, il est toujours parce qu'on le reste à vie. C'est Alain Bernard, en fait, un athlète, un super athlète qu'on a l'occasion de côtoyer régulièrement. Alors maintenant, bah, qui a pris la retraite des bassins, ouais. Qui est aussi un passionné d'aéronautique. En fait, okay. il aurait, je crois, voulu faire pilote aussi, mais bon, finalement, il est resté dans l'eau et je crois que ça lui a plutôt bien réussi. Mais il pilote aussi à côté, donc il est passionné d'aéro et voilà. Et c'est vraiment une personne. Avec qui on adore échanger, voilà, qui avec qui on a des bonnes relations et voilà, qui a une approche à la fois gestion de la performance et ainsi de suite qui est hyper intéressante et en plus qui est d'une gentillesse et d'une humanité qui est top. Donc si tu as l'occasion de la voir, ça serait je pense très intéressant.
Eh ben, écoute, on m'a souvent dit que Alain était une personnalité vraiment. Généreuse, spontanée et d'une humanité rare. Et là, tu viens de me donner un angle pour lui envoyer un premier message sympa, parce que c'est toujours important d'avoir un premier message sympa pour contacter des nouvelles personnes. Donc, je te remercie sincèrement parce que du coup, je vais préparer un petit email. Je pense que je le ferai ce week-end tranquillement. Mm-hmm. Et ça serait avec grand grand plaisir. Et puis en plus, si les pilotes et tout, on aura vraiment plein de choses à se dire. Donc c'est super. Merci infiniment, Alexandre. Écoute, moi, je me suis régalé. C'était 2 heures. On aura la palme de l'épisode le plus long. On s'était dit que ça serait très long. J'ai abusé de ta générosité et je t'avoue que j'ai eu ce plaisir un peu égoïste de me dire bon bah si on peut en profiter, on faisons durer. J'aurais même pu durer encore plus longtemps, mais dans 15 minutes j'ai un petit appel avec un de mes clients, donc je vais.
Non mais c'est normal. Puis après, faut pas que les auditeurs ils s'endorment non plus, hein, nous écouter.
Mais tu sais,
on sent plusieurs fois quoi.
Mais non, mais écoute, le podcast est un média qui se consomme vraiment de manière, qui se consomme vraiment en plusieurs fois, qui se consomme vraiment de manière complètement asynchrone, quoi, où t'es en maîtrise du temps et tout. Et moi, je suis surpris effectivement de voir des gens qui vont commencer un épisode sur un premier footing et puis deux jours après, ils vont refaire un footing et puis ils vont écouter la fin. Et du coup, enfin, moi j'aime bien le temps long. Tu vois, je me dis, j'aime bien aller à l'inverse de la tendance où tout va beaucoup plus vite et tout est instantané. Ça fait bien de faire un petit peu d'asynchrone d'apprécier le temps. Voilà.
C'est une bonne vertu.
sachant que c'est ce qu'on a de plus précieux, donc voilà.
Exactement.
Bah écoute, merci infiniment, Alexandre. Peut-être juste pour terminer en quelques phrases, si on veut un petit peu suivre ton actualité ou celle de l'équipe de France de Voltige, vers quoi se rediriger, vers quel réseau se rediriger.
Alors pour l'équipe de Voltige de l'armée de l'air, on est sur Facebook, Instagram, on a un site internet, donc c'est équipe de Voltige de l'armée de l'air ou EVAA. Ouais. Et puis ensuite pour la partie équipe de France, eh bien on a aussi sur les réseaux sociaux une page équipe de France de Voltige, équipe Unlimited. Voilà, ça permettra de suivre les actualités sur les compétitions internationales.
D'accord. Et toi, peut-être sur Twitter ou sur LinkedIn, je sais pas, mais
ouais, moi j'ai juste Facebook en fait. Je suis un peu à l'ancienne, donc
ça va.
Voilà.
Bah ça roule. Mais écoute, merci infiniment, Alexandre. Merci aussi. Je l'ai pas dit en début d'épisode et c'est pas bien. Je me mets moins un parce que remercier vraiment sincèrement. Et fais-le pour moi, Cassandre, et aussi c'était Marion qui m'avait sollicité en premier, qui est kiné, ouais. Pour votre équipe.
Oui.
Et qui se sont donné à fond pour que cet échange ait lieu, et c'était, ouais. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous, donc c'était vraiment top et en tout cas bravo pour tout ce que vous faites, et c'était vraiment un plaisir de pouvoir parler aujourd'hui plus de 2 heures. C'était moi je me suis régalé.
Bah écoute, c'était un plaisir partagé, puis effectivement merci à Cassandre et à Marion pour avoir mis en place cet échange.
Ouais, exactement. Salut Alexandre.
Salut Barthélémy.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.